I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 2 novembre 2020. On s'excuse du retard, on a eu comme régulièrement des problèmes de son, mais tout le monde est là, c'est bon. Donc on va revenir sur le Nantes PSG de samedi soir, puisqu'il y avait quand même un match du PSG, même s'il n'a pas fait une grosse audience. Et on va ensuite parler forcément du Leipzig PSG de mercredi en Ligue des Champions. Nous sommes non pas deux ce soir, nous avons arrêté les podcasts intimistes avec Omar. Nous sommes quatre ce soir pour revenir sur ces deux matchs. Nous avons le retour de Monsieur Martinelli. Bonsoir Mathieu.
Salut à tous.
Voilà. Monsieur Omar, normalement c'est bon, tu es là ? Oui.
Je suis là.
Voilà, il est là.
Bonsoir tout le monde.
Et nous avons l'ami Tigno qui remplace l'enfant terrible.
Bonsoir, salut à tous.
Voilà, mais vous laissez Simon travailler, s'il vous plaît. Hein. Déjà qu'il a du mal à se concentrer, le jeune homme, alors si en plus vous allez le déranger, laissez-le.
C'était le pseudo Facebook de Titi avant l'enfant terrible en plus. Donc,
c'est vrai n'importe. Bon, on saura jamais si c'est vrai, mais peut-être. On nous demande est-ce que Simon est puni pour ses devoirs qu'il n'a pas fait jeudi. Non, mais il a du travail, tout simplement. Donc on le laisse travailler tranquillement, l'enfant terrible. Bonsoir à tous sur le live. Je vois qu'il y a déjà tous les habitués qui sont là, prêts à mettre des likes, des pouces et tout ça. Donc merci beaucoup. Sur les deux lives, tout est en place, c'est bon. On va attaquer tout de suite donc, sur le Nantes PSG de samedi. Victoire 3-0 des Parisiens. Donc, on ne va pas vous dire que c'était le match de l'année parce que ce n'était pas le cas, mais on a quand même vu des buts d'André Herrera à la 47e, Kylian Mbappé sur penalty à la 65e et enfin Pablo Sarabia à la 88e. Je pense que je vais faire le fameux Poudy match. Eh bien, oh là là, ça a été une rencontre. Bon, très pénible en première mi-temps, on va le dire. Ce qu'il y avait encore les jambes à Istanbul. On sait que le PSG enchaîne les déplacements en ce moment, c'est fatigant. Mais vraiment, toute petite première mi-temps, vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent, à part une occasion sur un bon mouvement avec un centre en retrait de Sarabia, de mémoire, pour Mbappé qui cadre pas. Nantes qui loupe l'ouverture du score de façon assez improbable, on va dire, avec Simon qui nous fait un raté de classe mondiale, un des ratés de la saison. Et puis la deuxième mi-temps un peu mieux, changement de dispositif tactique qui a fait beaucoup de bien, il faut le dire. Bonne entrée de Thiaïs Ruiz et le but d'entrée a un peu coupé les jambes des Nantais. Le deuxième arrive un peu rapidement, mais globalement ça leur pendait au nez. Il y a un deuxième tournant dans le match qui est le pénalty arrêté par Navas qui aurait pu relancer la partie. Et finalement, le PSG met un troisième but un peu anecdotique. Enfin, bon, voilà, je crois qu'en expected goals, on était à 2,96, on marque 3 buts. Donc bon, voilà. Mais donc une victoire simple et peut-être pas sans bavure parce qu'il y a quand même eu une première mi-temps horrible et un raté, comme on me dit. J'ai loupé le truc. Pas évident le raté, effectivement. Oui, un raté pas évident à rater. Mais bon, ça a été un match assez pauvre. Vraiment une rencontre qui ne va pas rendre à la Ligue 1 ses lettres de noblesse. Après, bon, pour avoir vu quelques autres bouts de match ce week-end, ça n'a pas été le seul match très pauvre du week-end. Les joueurs enchaînent à des rythmes défiant, comment dirais-je, peut-être pas toute logique, parce que oui, effectivement, il faut caser tous les matchs, mais c'est assez inhumain et ça se ressent sur la qualité des rencontres. On avait déjà eu des rencontres de milieu de semaine en Ligue des Champions qui n'étaient pas terribles. Ce n'est pas ce Nantes PSG qui a remonté le niveau footballistique de la semaine. Et bon, j'ai vu quelques autres bouts de match, ça n'a pas été beaucoup plus glorieux ailleurs. Donc voilà, une petite victoire, mais une victoire quand même. Pas une belle victoire, mais une victoire. Le PSG prend des points, le PSG seul en tête pour la première fois de la saison. C'est à noter quand même. Et puis, le seul point un peu négatif, ça a été la sortie sur blessure de deux joueurs. Alors Keane, parce qu'il avait pris trop de coups en première mi-temps. Et Mbappé pour un peu une fatigue musculaire qui est tout de même un peu gênante. Voilà, on me dit que je suis dur et que la deuxième mi-temps laisse une bonne note. Oui, c'est sûr, mais la première mi-temps est peut-être une des plus mauvaises de la saison quand même. Alors certes, avec une équipe un peu de briquet de broc, beaucoup de manques, et vraiment une ligne défensive avec pratiquement que des remplaçants théoriques. Faut le rappeler, un milieu de terrain où il y avait Herrera qui avait joué il y a 2 jours, Gueye qui revient de blessure et Rafinha qui est clairement pas à 100%. Mais donc voilà, pas un grand match, mais bon... Enfin, c'est d'habitude, on jouait ces matchs-là le samedi à 17h en sortant de la sieste. Là, on les joue le samedi à 21h. Bon, bah, les matchs sont pas plus folichons, il n'y a que l'horaire qui a changé. Voilà un peu mon pour du match. Donc, pas super, super positif, mais bon, les points sont là et c'est déjà pas mal. Mathieu, si tu veux rajouter quelque chose ou Tigno ou Omar.
J'ai abondé dans ton sens hein, pour dire la fréquence à laquelle s'enchaînent les matchs. Mbappé, il en est à son 11e match consécutif. Et sur ces 11 matchs, il y en a 10 qui s'enchaînent tous les 3 jours. Donc je crois qu'il y a eu qu'une seule fois en fait, où il y a eu une semaine complète entre 2 matchs pour Mbappé cette saison. C'est entre Reims et Nice, il me semble, pour les 2 matchs du PSG. Et sinon, tout le reste, c'est tous les 3 jours. Tous les 3 jours entre les matchs du PSG et les matchs de l'équipe de France. Et sur les 11 matchs qu'il a joué, il y en a 9 titulaires et 2 où il est remplaçant. Un où il joue un quart d'heure, mais un où il joue quand même une mi-temps complète. Donc ça te laisse imaginer un peu la fréquence. Et pour lui, ça ne va pas s'arrêter puisqu'il rejoue... Il rejoue après-demain, il va peut-être rejouer ce week-end, puis ensuite il enchaîne l'équipe de France. Ça fait un rythme, il a dû jouer 10 matchs en une trentaine de jours, donc t'imagines, en étant sollicité, en étant titulaire 9 fois, plus en jouant une mi-temps complète en équipe de France, avec des objectifs, avec aussi une certaine pression. Bon, c'est quand même un miracle que jusqu'à présent, ses muscles tiennent, hein, et qu'on en soit juste au stade d'alerte parce que
ça tient finalement plus longtemps que ça quoi. C'est ça le problème
C'est ça jusqu'à quand hein. Parce que tu peux dire qu'avec des joueurs qui sont soit moins forts physiquement soit moins professionnels, ça aurait pété depuis un certain moment, mais on va dire que c'est un peu le symbole d'une équipe du PSG que je trouve complètement à la rue physiquement hein, à des niveaux qu'on a rarement vu ces derniers temps. Pourtant on n'est pas forcément l'équipe la mieux préparée en règle générale, mais là ça choque vraiment. Et c'est un peu ce que tu vois en première mi-temps où, ok, d'un point de vue défensif, tu n'as pas les moyens de faire un vrai pressing haut ou de maintenir un bloc haut dans le camp adverse. Donc tu transiges un peu, tu fais un bloc, un repli un peu bas ou un peu médian avec 8-9 joueurs qui défendent, mais qui défendent de façon extrêmement passive, qui n'ont pas le jus en fait pour sortir sur le porteur. Qui défendent à plusieurs mètres du joueur qui a le ballon, et c'est comme ça que tu te retrouves avec Nantes qui peut faire une séquence de possession complète de 2 minutes dans le camp adverse et qui mène à l'occasion ratée par l'avançante de Nantes dont j'ai oublié le nom.
Simon.
John Simon.
Ah, c'est Simon, ouais.
C'est l'ailier gauche.
De joueur qui fait le.
C'est Colomoigny qui fait le débordement et Simon qui fait la reprise loupée de la semaine.
Exact, exact. C'est ça. C'est un peu le symbole de la passivité du PSG sans ballon qu'on a vu en première mi-temps. Une équipe du PSG qui arrive loin dans les duels. En fait. Et c'est forcément, même avec une équipe qui n'est pas forcément la reine du jeu offensif comme les Nantes, tu peux rapidement te trouver hors de position. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur cette action-là. Et si tu ajoutes à ça, on va dire, une organisation un peu curieuse avec le ballon en première mi-temps, avec des latéraux assez bas qui participaient, qui étaient assez bas en phase de construction. Et avec un 4-3-3 avec des ailiers aussi qui partaient de positions assez excentrées, tu voyais un PSG qui n'avait pas forcément les moyens ni physiques ni tactiques pour progresser, mettre vraiment en danger une équipe de Nantes qui a déroulé son 4-4-2 en zone qu'on voit depuis 20 ans avec Arrigo Gourcuff. Voilà, c'était pas trop de surprise. Et effectivement, comme tu as dit, Philo, le tournant, c'est un peu le changement forcé de la mi-temps et le basculement à un autre dispositif. L'entrée de Kaïs Ruiz qui rajoute un joueur au milieu de terrain et le passage de Rafinha en sorte de faux numéro 9 ou numéro 10 comme on veut, t'es passé d'un coup face aux 2 joueurs de Nantes, le double pivot, tu leur opposais 4 joueurs, un en face, 2 relayeurs et un dans le dos, et forcément t'as pu créer beaucoup, beaucoup plus de situations, c'était beaucoup plus facile de progresser par les voies axiales. Et c'est comme ça que tu t'es... Bon, évidemment, le but assez rapide te facilite encore la donne, parce que Nantes, visiblement, n'avait pas non plus beaucoup de caisse, ou ni d'ambition, ni de moyens, ou de qualité, pour faire beaucoup plus que la première mi-temps. Mais on va dire qu'avec plus d'options dans le milieu de terrain et un but assez rapide pour te faciliter la tâche, tu as une mi-temps beaucoup plus convenable et avec plus de solutions et un jeu plus en adéquation avec la différence de qualité qu'il y a entre les deux équipes. Mais malgré tout, au final, tu as cité les expected goals, Philo. Nantes en a à 1,5 aussi sur ce match-là. Ouais. Évidemment, il y a le pénalty qui rentre en compte, mais ça fait quand même le deuxième match à 1,5 pour l'adversaire. Paris encaisse 0 but. C'est ça qui est assez, assez intéressant, parce qu'entre Dijon et Nantes, en théorie, tu devrais concéder 3 buts et tu en concèdes 0. Donc c'est un peu ce qui est amusant sur cette phase du PSG en ce moment, après une phase de début de saison où tu n'étais pas du tout à ce niveau-là de réalisme.
Ouais. Mais je crois qu'on a pris qu'un seul but depuis un moment. Enfin, je crois
oui, c'est la tête, ça, ouais. C'est la tête de Traoré contre Angers au second poteau. C'est voilà. Globalement, depuis le but de Thauvin, qui était le 13 septembre, on a pris un but en 2 mois de Ligue 1. Et comme on dit sur le live, en n'ayant jamais aligné notre équipe type, avec des matchs pas terribles, voilà, quand on est tous arrivés à la conclusion que c'est vraiment un championnat de piètre niveau.
C'est ça. Voilà,
on nous signale en expected goal le raté de Simon est coté à 0,72, qui est quand même un truc où en général tu es censé le mettre, quoi. Mais bon,
c'était un peu le même raté que Saint-Maximin, il me semble, à
Saint-Maximin sur les débordements d'Atal qui cassent les reins
sur Bernat, ouais. Exact.
Ouais, mais bon, ça arrive comme ça. Quelques réactions sur le live. On nous dit, pour faire plaisir à Mathieu, niveau PPDA, donc un indicateur de pressing, on est à plus de 12 et eux à 24. Ouais. Alors, autant dire,
bah, c'est 12, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Nantes peut faire 12 passes dans son camp avant que Paris fasse une action défensive. Donc,
Et eux, 24, autant vous dire qu'en termes de pressing, là, on est au niveau 0. Quoi.
C'était un match du dimanche matin. Ouais.
C'était un peu ça. On nous dit, le but des trêves, c'est pas de blesser le joueur jusqu'à la trêve suivante. Bah oui, la trêve internationale à 3 matchs, malheureusement. C'est un peu les conséquences des matchs qui n'ont pas été joués l'an dernier et de. Comment ça s'appelle de la Ligue des Nations, cette horreur. Donc bon, voilà quoi.
Mais comme disait Tourelle, désolé, Philo, de te couper, en conférence de presse, je sais plus c'était quand, il disait on est en train de tuer les joueurs.
C'est vendredi.
C'est vendredi qu'il dit ça, on est en train de tuer les joueurs et c'est vraiment ce qui se passe. On sent des joueurs émoussés, des joueurs sans réponse face à l'adversaire. J'ai en tête, mais ça c'était plutôt en milieu de semaine quand je voyais Florenzi revenir en Turquie ou encore Marquinhos sur quelques actions. Les joueurs ont l'air quand même totalement cuits physiquement. Et là, on a parlé de cette phase où on prend qu'un seul but. Quand on voit qu'on est en retard dans la préparation, qu'on a des joueurs qui sont un peu fatigués, qu'on ne monte pas non plus grand-chose dans le jeu par moment.
Non.
Bah, c'est, je vais pas dire que c'est inquiétant sur le niveau de la Ligue 1, mais bon, presque.
Ah si, c'est inquiétant, si, parce qu'on a vu quand même, à l'époque où ça ne jouait pas encore trop tout le temps, je trouve qu'il y avait quand même eu 2-3 bons matchs, 2-3 bonnes équipes, mais là, dernièrement, enfin, tu vois rien en termes de football, quoi. Et les équipes face au PSG ont renoncé de complètement. Enfin, j'ai l'impression de revoir les matchs de 2015-2016 où ils essayaient même pas, quoi, tu vois. Donc,
Ce qui est étonnant, c'est que la Ligue 1 s'est pas trop affaiblie cet été.
Bah non, priori, mais c'est. Je pense que c'est le contre-coup aussi de la situation générale. Quand tu vois que Canal fait 500 000 vieux spectateurs sur un match comme ça, c'est que les gens n'ont pas forcément la tête au foot, que le public manque beaucoup aussi. C'est, ce que,
oui,
c'est aussi.
Un des trucs que tu vois. À la Beaujoire, ça joue, oui, c'est sûr.
La Beaujoire, ça joue. En plus, le stade est super grand, c'est encore plus creux avec ce huis clos-là. Non, ça joue beaucoup.
Non, t'as l'impression de voir que des matchs amicaux améliorés, et puis tu les vois, les mecs sont rincés. Moi, je crois que j'ai pas regardé un match cette semaine où il n'y a pas au moins un joueur qui est sorti sur blessure musculaire. J'en ai vu quelques-uns, ou même des bouts de match. Je suis tombé, je crois que j'ai regardé genre un quart d'heure de Dortmund samedi après-midi. Je vois Hummels qui dit ah non, les adducteurs s'attirent et tout. Le soir, Mbappé et Keane. Enfin, je ne sais plus ce que j'avais regardé en milieu de semaine aussi, où pareil, un ou deux mecs qui sortent sur blessure. Bref, les joueurs sont rincés, ça casse de partout. Et effectivement, même Leipzig, qui est quand même une équipe très très préparée physiquement depuis toujours, a des joueurs qui pètent. L'entraîneur n'arrête pas de se plaindre, tout ça, quoi. Donc bon. On va revenir au terrain, mais enfin au terrain, au jeu plus exactement, parce qu'on parlait forcément, quand on parle de physique, on parle quand même un peu du terrain. On va pas parler de leur vie extrasportive, parce que je suis même pas sûr qu'ils aient encore le temps d'en avoir une avec tout ce qu'ils jouent. Mais voilà, pardon. Omar, sur la rencontre en général, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on revient un peu sur les demi-temps, peut-être plutôt la deuxième que la première, même si Mathieu a commencé à en parler avec le positionnement un peu du milieu parisien.
Non, forcément, la fatigue physique rentre en ligne de compte. Après, je pense qu'elle n'est pas répartie de manière égale sur tous les joueurs, qui ne sont pas tous sollicités de la même façon, parce qu'il y a des joueurs qui sont pas ou à peine internationaux, donc qui ont eu des trêves pour souffler et qui malgré tout ont des productions assez médiocres. quand on pense à la première mi-temps. Donc, je n'occulte pas le fait qu'avec les process Covid, il y ait plein de joueurs qui aient des entraînements un peu décalés et tout. Donc, ça rentre forcément en ligne de compte. Mais après, la production face à une équipe B nantaise en première mi-temps, ben, on peut tourner dans tous les sens. Ça reste quand même largement insuffisant. Largement insuffisant. Et la fatigue physique, elle nous, enfin, on se facilite pas les matchs parce que on ne pressant pas. Parce que là, on est arrivé à un stade où on ne presse même plus les adversaires. Bah, en fait, c'est totalement contre-productif parce que ça demande à nos joueurs offensifs de courir encore plus. S'ils faisaient plus, peut-être les deux pas en avant, pour reprendre une phrase célèbre de Guardiola, vaut mieux faire 5 mètres pour presser que 80 pour revenir. Et là, on est en train de tomber dans l'écueil totalement inverse. Donc ça, c'est pour moi quand même assez bizarre et à noter, parce que Tourelle en parle constamment, du fait qu'on soit très très fatigué, mais on est passé à un stade où on ne fait plus du tout d'efforts. Ça a failli être payant dans le mauvais sens contre Nantes, parce qu'en première mi-temps, ils auraient pu ressortir avec un but d'avance. Le 0-0 est assez bien payé à ce moment-là. Mais bon, sur la qualité individuelle et sur le fait que ce soit une équipe très amputée, on arrive quand même à gagner ce match. Le 3-0, pour le coup, il est pas trompeur parce qu'il reflète quand même un écart de qualité très net entre les deux équipes. Mais par contre, en termes de production, on fait sans cesse, toutes les semaines, un peu plus mauvais que la semaine précédente. Donc, il faut pas s'amuser à s'en contenter parce que, en général, la première tarte qui te réveille, elle peut faire très mal. Et j'espère qu'elle n'arriverait pas dès mercredi, en fait.
Les mauvaises langues, Omar, diront que les offensifs ne vont pas les 5 mètres en avant, mais ne font pas non plus les 80 mètres en arrière. Donc,
il n'y a pas que les mauvaises langues qui le disent. Il faut juste avoir téléfoot et appuyer sur 122.
Ouais, après c'est vrai que quand on plaint Mbappé d'enchaîner 11 matchs, c'est sûr que quand tu fais autant de kilomètres parcourus que Keylor Navas et autant de sprints que Keylor Navas, tu peux les jouer les 11 matchs d'affilée. Mais bon,
c'est pas à lui que je pensais à d'autres qui sont pour le coup pas aussi dans des formes exceptionnelles. Mais bon, ça c'est parce que je me mets du côté, je fais un peu l'avocat du diable. Bien sûr, il y a mille circonstances atténuantes, mais il y a quand même des choses dans la production qui sont vraiment pas bonnes.
Ah non.
Et ça, on doit pas l'occulter, en fait.
Non, même globalement, je trouve que c'est une des fois où le PSG a eu le plus de difficultés en premier temps à même créer 3 passes vers l'avant ou autre, quoi. Enfin, le seul.
Bah, c'est compliqué, Philo, avec Herrera, par exemple, au milieu de terrain.
Bah ouais, mais Herrera, tu vois, c'est le seul qui a réussi à trouver un attaquant devant lui avec Sarabia, quoi. Parce que la relation Herrera-Sarabia, c'est pratiquement le seul truc qui a fonctionné offensivement en première période. Pardon. Après, oui, c'est sûr, tu files le ballon à Mbappé, il accélère un coup, ouais, tu crées des choses, oui, mais bon, c'est. Enfin, tu peux même mettre Sébastien Piocelle, il filerait le ballon à Mbappé, quoi. Je veux pas être méchant, c'est pas très compliqué de le faire. Hein. Moi, tu m'y mets, je te le fais. Hein. Enfin, je sais pas, j'avoue que offensivement, Omar a raison. Enfin, Omar a insisté plus sur l'aspect défensif, l'absence totale de pressing et tout ça. Mais je trouve qu'offensivement, en termes de disponibilité, de montée des latéraux, alors je sais pas si c'est une consigne, mais quand je vois Dagba.
Pour moi, c'était une consigne, Philo.
Ouais, c'est parce une consigne.
Tu vois vraiment Dagba et Bakker qui étaient assez bas en phase de construction. C'est pas comme ça à tous les matchs. Tu peux les avoir beaucoup plus libres, notamment Bakker, tu peux l'avoir beaucoup plus libre et beaucoup plus utilisé dans sa capacité qu'on découvre un peu ces dernières semaines. À déborder ou à proposer offensivement, mais c'est vrai que ça c'était un peu curieux de voir les deux latéraux ensemble assez bas sur le terrain et les deux ailiers qui restaient plutôt excentrés sur leur prise de balle, on va dire. Moi j'ai eu l'impression que c'était pour faciliter la relance, c'est-à-dire que face à une Nantes qui va venir avec deux attaquants, tu te blindais avec quatre solutions, on va dire, assez courtes, plus le numéro 6 pour faire progresser le ballon comme ça et ensuite trouver par des décalages, tes ailiers, soit sur du 1 contre 1, soit avec un peu de champ pour avancer. Mais c'est vrai que l'exécution était assez loin de cette théorie-là sur la première mi-temps. Effectivement, ce qu'on a pu constater, c'est beaucoup, beaucoup de passes latérales, beaucoup de passes en retrait. Et une fois que les ailiers étaient touchés, ils étaient touchés dans des situations de grande infériorité. Et ça, c'est compliqué, même pour un Mbappé qui a des jambes ou qui a beaucoup de bonne volonté. surtout quand Neymar n'est pas là, de prendre en main les choses et de se montrer un peu aux quatre coins du terrain. Mais c'est vrai que la première mi-temps, des points de vue offensifs, était très faible.
Ouais, on nous dit c'est pas drôle, c'est pas bien drôle tout ça, ça va plus loin que le physique et le vide du Covid. Non, mais je pense qu'il y a aussi une fatigue mentale, ils le disent, ces joueurs, ils en ont marre de jouer, qui sont épuisés, voilà. Après, il y a des moments où ils vont devoir se bouger. Hein. Le match de mercredi, mentalement, il faut pas parler de fatigue, quoi. C'est terrible, mais c'est ça, quoi. C'est aussi leur métier, malheureusement, ils sont payés pour ça. Enfin, malheureusement, ils ont quand même un métier de rêve, hein, faut le rappeler. Mais c'est vrai qu'il y a, de l'usure, je pense. Peut-être même plus mental que physique encore, d'après ce que certains disent, mais je comprends qu'aller jouer un samedi soir à Nantes dans un stade à huis clos qui résonne et tout, ça les fasse pas rêver, quoi. Mais j'espère que mercredi, par exemple, ils seront capables au moins mentalement d'aller chercher des choses, parce que
le stade de l'Axis, il fait pas rêver non plus. Hein.
Ouais, mais bon, au pire, on leur mettra la musique de la Ligue des Champions.
Mais la musique, voilà, la musique doit faire rêver quand même.
Non, mais ouais, et puis surtout, ils sont au courant que honnêtement, ils perdent samedi à Nantes, là. Bon, allez, tu perds à Nantes, bon. C'est pas glorieux, mais globalement, tu t'en fous dans une saison de 38 matchs, quoi. C'est pas grave, au pire, tu repasses deuxième, il te reste encore 29 journées pour reprendre la tête, bon, voilà. Tu perds Leipzig, là, ça veut dire que t'as deux défaites en 3 matchs Ligue des Champions, t'as déjà un bon pied et demi dehors, quand même. Hein. Enfin, peut-être pas un pied et demi, mais t'es quand même bien mal parti en Ligue des Champions, tu peux pas accepter ce constat de fatigue mentale sur un match aussi important, quoi. Je regrette. Et est-ce qu'il y a huis clos en Ligue des Champions? Oui, de mémoire, oui, huis clos à Leipzig, normalement. Enfin, il me semble, hein, j'avoue que je n'ai pas cherché. Peut-être qu'il n'y a pas huis clos. Bon. En tout cas, il n'y aura pas grand monde quand même.
Ce n'est pas 300 personnes qui changeront le comportement de l'équipe à la perte. Ce n'est pas 300 personnes qui donneront peut-être à Dagba un peu plus de courage pour explorer son couloir. Ce n'est pas 300 personnes non plus qui feront qu'on a le droit de faire des passes vers l'avant et qu'on n'est pas obligé de responsabiliser Mbappé sur absolument toutes les phases du jeu. Tout ça, c'est de la circonstance. Il y a d'autres choses, en fait. Pour le coup, il y a vraiment d'autres choses. Et moi, le raisonnement comme quoi perdre à Nantes, c'est pas grave parce qu'il y a 38 journées, bah, en fait, on ne sait pas s'il y aura 38 journées. C'est pour vrai. Ça que s'habituer à faire des performances médiocres, voire très mauvaise. Pour le moment, on a toujours les résultats. Mais il faut voir qui est-ce qu'on a affronté. Si on joue des équipes un peu plus costauds dans les semaines qui arrivent, tu t'en tireras pas toujours en ne faisant pas 3 passes. Hein. Pour moi, enfin, on peut tailler la Ligue 1, on peut faire tout ce qu'on veut, mais le niveau de ce qu'on propose, notamment en première mi-temps, enfin, moi, je vois Lille, c'est meilleur en ce moment.
Ouais.
Ah oui, non, c'est clair que Lille a fait un meilleur match ce week-end.
Après, ça ne fait pas rêver les supporters. On peut se raconter tout ce qu'on veut. Mais en ce moment, moi, si on joue contre une équipe aussi terrible que Lille en transition, aussi agressive à la récupération, c'est pas dit qu'on gagne. Donc, le constat, si vraiment on s'arrête à la production, il est celui-ci. Et après, que Tourelle gueule, que toutes les instances gueulent, c'est normal. Mais si vraiment on juge la production, eh ben la production, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne depuis plusieurs longues semaines. Et quand on taille Mbappé parce qu'il rate une occasion, ben on devrait lui dire merci parce que sur le terrain, il fait tout, mais plus que tout. Sans lui, il n'y a rien.
Oh, ouais, non, c'est vrai que sur le match de samedi, il n'y a pas grand-chose.
Bah,
sur
lui, je suis d'accord. Tu regardes la première mi-temps, t'enlèves Mbappé, peut-être que tu ne rentres pas dans les 30 mètres nantais.
Ouais, t'as l'occasion où il est à la réception, mais
je suis d'accord. Il en a deux.
Bah oui, il est toujours là, en fait. Mm-hmm. C'est pour ça que je te dis, enlève-le. Moi, j'ai fait l'exercice avant de le dire. Tu retires le numéro 7 de cette équipe, tu n'as rien offensivement pendant 40 minutes.
Non,
c'est clair. Ça, c'est pas le Covid, c'est pas la fatigue. Il y a d'autres problèmes. Donc voilà, et il faut en parler. Enfin, Tourelle doit en parler.
Ouais,
non, moi, je suis tranquille, il n'y a pas de souci, mais.
Non, mais après, il va te dire que t'enlèves Mbappé. Le problème, c'est que tu lui as déjà enlevé Neymar, tu lui as déjà enlevé Di Maria, tu lui as enlevé Icardi, tu lui as enlevé Draxler, il va te citer tous les absents, tu le sais très bien, quoi.
Ouais, mais moi, je vois que Nantes a 15 absents aussi.
Ouais, ouais.
Et je vois qu'ils sont capables de faire des actions à 23 passes. Et que nous, on n'en a pas fait une depuis Pompidou, pratiquement. Donc, voilà, hein.
Non, c'est clair, non, mais je ne veux pas te dire le contraire. La production est très faible ce week-end. Pour moi, c'est peut-être la plus mauvaise mi-temps de la saison, parce que t'as vraiment rien offensivement, et en plus tu concèdes une grosse occasion, quoi. Donc bon. Par contre, on s'est pas fait ouvrir par l'équipe B, hein. Colomwani, Simon, les attaquants, c'est l'équipe A, c'est en défense où c'était l'équipe B. Enfin, ou les en tout cas les remplaçants plutôt. Sur la deuxième mi-temps, qui est un peu plus positive, qu'est-ce que vous voulez retenir cette espèce de losange sorti de nulle part qui nous a mis en place ou autre chose? Ou pas, ou rien du tout, hein. On peut dire que...
Bah, si, quand même, Philo, tu nous disais en plus que Case Reese ne méritait pas de minutes par rapport à Ressé, donc...
Ah non, j'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il devait faire mieux quand il était sur le terrain. Et là, d'ailleurs, je suis très content. Là, il a été...
Franchement, très bonne entrée. Franchement, il a fait une bonne entrée, il a réussi à saisir l'occasion qui a été donnée par le coach. Dès ses premières actions sur la pelouse, hein. Le but d'Herrera. Il arrive assez tôt dans la mi-temps, si je dis pas de bêtises.
Oui,
c'est lui qui a la réception ou il a.
Et au départ, c'est un centre, je crois, de.
D'Herrera,
voilà, ouais. Il récupère, il combine avec Mbappé.
C'est ça.
Et ensuite, voilà. Mais il y a eu plein d'actions où c'est la relation Ruiz-Mbappé qui a fait un peu basculer la rencontre, quoi.
En fait, cette envie d'avoir le ballon qu'il avait, c'est simple, hein, mais l'envie d'avoir le ballon, d'être disponible. Et elle nous a fait du bien, ça. Déjà, comme tu as dit tout à l'heure, ça a rajouté un quatrième milieu de terrain. Ça a été un peu plus compliqué pour l'entrejeu nantais. Et cette envie de toujours avoir le ballon, de toujours tenter quelque chose. Bon, après, c'est pas non plus, ils tentent pas non plus de trucs très fous, mais toujours être disponible et présent pour ses coéquipiers, ça nous a bien aidé. Il a fait c'est pas une entrée folle, mais c'est une bonne entrée et ça montre qu'il est bien concerné. Et j'espère qu'il va en faire d'autres comme ça quand il aura l'occasion, bien sûr.
Je crois que c'est une quarantaine de ballons joués, hein, sur la mi-temps en Case Ruiz, donc c'est un gros volume quand même.
Bah, c'est comme, tu te rappelles, le match contre Lens où il avait une très bonne relation avec Verratti. Bah, il avait touché pas mal de ballons en première mi-temps.
Mais là où Verratti, il y avait une tendance entre les deux à jouer vraiment très court ensemble et progresser, enfin quasiment, ils se cherchaient mutuellement exclusivement. Là, ça n'a pas été le cas parce que, on va dire que les passes qu'ils trouvaient, elles étaient plus vers l'avant et peut-être avec une distance un peu plus grande, soit directement vers Mbappé, soit pour trouver. D'autres joueurs, enfin, il a eu plusieurs dans les 10 premières minutes de la mi-temps. Il a 2-3 passes comme ça vers l'avant, assez bien senties, qui font avancer le jeu tout simplement. Et couplé, comme tu as dit, Titi, à sa disponibilité, effectivement, c'est un peu ce dont on avait besoin pour mettre un peu de difficulté à une organisation nantaise qui est assez classique, mais bon, il protège assez mal au final la zone qui est entre la ligne de milieu et la ligne de défenseur. Donc, c'est un peu cette zone-là que Ruiz a pu attaquer en attirant à lui les milieux nantais et ensuite en trouvant directement Mbappé, soit Mbappé directement, soit aussi en connectant avec Rafinha qui se baladait entre les lignes. Donc, au final, non, ça a été une rentrée utile et c'est surtout ce dont avait besoin le PSG à ce moment-là, après une mi-temps où globalement tu avais du mal à trouver des relais dans le cœur du jeu.
Bah, ce qu'on dit sur le live, la mi-temps est meilleure avec la deuxième. On dit que c'est surtout en mettant un joueur technique, ça change tout, et que ce milieu à 3 sans joueur de ballon en première mi-temps. Si Rafinha n'est pas un joueur de ballon, excusez-moi, quand même.
Et surtout, ne pensez pas au milieu de terrain qui va être aligné face à Leipzig après, non, parce que Marquinhos, Gay Herrera, on y va tout droit. Hein.
Ouais.
On verra. Il n'y en a pas un qui sait faire une passe vers l'avant. Hein.
Bref, peut-être Herrera dans les grands jours. Peut-être, je sais pas.
Peut-être, ouais.
Non, on nous demande quel est le poste de Ruiz. Alors, Ruiz, c'est pas compliqué, déjà, il a été préformé au Barça, il a toujours gardé ça en lui. C'est vraiment un relayeur constructeur, comme vraiment, c'est un pur joueur de 4-3-3, quoi. Ou de 4-4 de losange, mais le 4-4 de losange est devenu tellement rare que globalement aujourd'hui les relayeurs jouent plutôt 4-3-3 dans l'ensemble, en schématisant beaucoup. Et c'est typiquement ce genre de joueur, qui est un joueur qui est capable de prendre le ballon assez bas, de le monter, de le faire remonter sur le terrain avec des passes notamment, ou un peu de conduite de balle, parce qu'il en est largement capable vu la technique qu'il a, et il sait très bien dribbler. Et donc voilà, il a joué un peu partout avec le 19, au départ il jouait des fois second attaquant, quand il jouait en 4-2-3-1 il jouait 10 en gros, quand il jouait en 4-3-3 il jouait relayeur, mais il était toujours, de mémoire il a toujours joué dans des postes axiaux, pas comme Xavi Simons qui a des fois joué vraiment côté, lui il jouait vraiment relayeur, non il a pas joué sentinelle par contre, sentinelle c'était soit le petit Capot qui a pas encore joué, qui a été deux trois fois dans le groupe, soit Fadiga qui a lui joué un cran plus bas, quoi. Mais oui, il a, on me dit sur live, il a un coup à jouer. Bien sûr qu'il a un coup à jouer, il suffit de voir le nombre de blessés qu'on a. Alors après, là, il a intérêt à vite faire son trou, parce que Paredes est sur le point de rentrer, il y aura, comment il s'appelle, Verratti qui va revenir aussi, normalement, Draxler.
Voilà.
Bon, là, il est...
Non, après, il a pas vocation à jouer 20 matchs dans la saison non plus, mais là, déjà, il a déjà le même temps de jeu que Aouchi sur l'ensemble de la saison dernière, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, quelque chose de très approchant.
Ouais, il en est à 145, je crois qu'Aouchi, je fais 162
minutes. Ah, même plus, alors,
ouais, ouais. Non, parce qu'Aouchi, il avait joué aussi un petit peu en Coupe de France. Enfin bon, en tout cas, oui, il a un temps de jeu pour un joueur de 18 ans qui physiquement n'est pas mûr. Hein. Enfin, vous l'avez vu, que physiquement, bon, voilà quoi. Il a un temps de jeu très, très bien pour un gamin de son âge, quoi.
Après, ça fait toujours plus plaisir de les voir eux, à la fois lui et Fadiga, que rester sur un terrain.
Ah, bien sûr.
Mais je pense que c'est même sportif, mais au-delà de faire plaisir ou quoi, même sportivement, ça apporte une autre énergie, on va dire.
Bah, le fait que Ressé n'ait même pas été dans le groupe alors qu'il manquait je sais pas combien de joueurs, voilà quoi. Ça en dit long déjà sur il est un peu il semble, après il a réussi à se blesser, je sais même pas comment lui, mais bon, on va dire que le joueur en surpoids arrive à se blesser à l'entraînement, c'est bizarre. Bref, sur la deuxième mi-temps, il y a autre chose que vous voulez, peut-être le positionnement de Rafinha en 10, où tu l'as carrément même mis, Mathieu, toi, faux numéro 9 par moment, tu trouvais. Bon, et à un moment, j'hésitais, moi aussi.
Ouais, ça dépend. Après, c'est une histoire vraiment de sémantique. Hein. Ça ne change pas grand-chose. On va dire qu'il était dans cette zone-là entre les défenseurs et les milieux de terrain. C'est pas... Après, tu appelles ça comme tu veux.
Ouais, non, mais c'est paradoxal. C'est qu'il a... enfin, je trouve que ça lui allait mieux, ce rôle, où il a moins touché le ballon, alors que pourtant, en général, avec le ballon, il est quand même... Il est quand même plutôt très fort, quoi. Je sais pas, j'ai été un peu surpris de son match en général.
C'est un joueur qui est en manque de conditions, hein, quand même, en ce moment. On le sent bien. Bah, après des débuts où qui était plutôt bon, mais que tu peux attribuer avec le recul à une sorte d'euphorie. Mais là, tu sens qu'il est un peu plus dans le dur, et le fait d'enchaîner, ça le fait entamer une phase où il doit un peu avaler des efforts physiques qu'il faisait plus depuis un moment, vu qu'il n'a pas fait de préparation ni rien.
Bah, il a fait la prépa du Barça, mais il a pas joué une minute, ouais, entre la Liga, la fin de la Liga, je crois que c'était le 19 juillet avec le Celta Vigo, et son transfert à Paris, qui est le 5 octobre. Il a fait un banc de touche avec le Barça en Liga, mais c'est tout. Donc il a pas joué pendant 3 mois, quoi.
Moi, je pense que c'est pas forcément une histoire de position. La position qu'il a occupée en première mi-temps, je pense que c'est une position qu'il peut totalement occuper de façon viable au PSG, quand il aura récupéré de la forme, ça posera vraiment pas de problème. Je pense pas que ce soit un joueur qui soit nécessairement plus à l'aise en tant que 10 derrière l'attaquant. Il a joué à ce poste, évidemment, mais il a joué aussi beaucoup, beaucoup de matchs en tant que relayeur d'un 4-3-3, soit à gauche, soit à droite. Donc, non, je pense pas que ce soit une histoire de position, c'est plus une histoire de conditions conditions physiques pour Rafinha.
Ouais, juste sur live, on nous dit qu'il donnait l'impression qu'il avait besoin de trouver des relais, que ça, l'entrée de Kays Ruiz l'a aidé à ce niveau-là, justement, de peut-être pas être le seul à devoir assumer la partie avec ballon, d'avoir un autre joueur qui va l'aider, quoi. C'est peut-être ça, effectivement. Je sais pas, Tigno ou Omar, ce que vous en pensez, parce qu'on est un peu parti sur les perfs individuels au passage, là, sur le match de Rafinha. Moi, j'avoue que c'est ma grosse déception du match. C'est celui dont j'attendais le plus, et j'ai eu l'impression d'un contre-coup, comme tu dis, Mathieu, physique depuis quelques semaines, où il se le prend en pleine tête, quoi, mais bon. Omar ou Tigno sur Rafinha, qu'est-ce que vous en avez pensé? Faut pas vous battre, les enfants. Hein.
Mais non, moi, pareil que toi, j'étais un peu déçu de certains mi-temps, après, comme l'ensemble de l'équipe. Hein. Mais avec le milieu aligné, j'attendais que ce soit un peu lui qui prenne la responsabilité, pardon, du jeu avec ballon, peut-être des fois d'apparaître un peu à la relance pour essayer de décharger Gueye et Herrera. Mais c'est vrai qu'on l'a très plu en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ce changement de poste, faux 9 ou numéro 10, ça l'a permis de moins toucher le ballon, mais d'être un peu plus trouvé par ses collègues comme Kays Ruiz, avec un relais supplémentaire pour pouvoir jouer avec lui. Ouais, je pense que physiquement, il est pas prêt, tout simplement. Il est pas encore prêt. Il doit refaire un peu sa condition physique après ce début de saison, on va dire, compliqué pour lui, où il avait, comme tu as dit, il a fait qu'un banc avec le Barça, et il est arrivé un peu directement au PSG. Il a fait un match un peu... c'était à Nîmes, je crois, le premier match où il est bon, il fait une passe décisive.
Ouais.
Il est vraiment bon, mais après, peut-être, comme a dit Mathieu, c'est un peu d'euphorie, il venait d'arriver, voilà, il fallait qu'il laisse sa carte de visite. Et maintenant, j'espère qu'il va quand même reprendre un peu en condition physique et faire de meilleurs matchs, parce que Après, c'est que le début, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'est pas encore très, très. Pas encore très, très, très bon, mais c'est normal.
À Nîmes, il ne faut pas oublier deux trucs, c'est que déjà, on joue à 11 contre 10 pratiquement tout le match, et qu'il sort à l'heure de jeu, en fait.
Il sort carbo en plus, ouais.
Et il sort carbo à l'heure de jeu, quoi. Donc, c'était peut-être aussi déjà annonciateur du fait qu'il a vraiment beaucoup de travail devant lui. Mais c'est vrai qu'il joue à tous les matchs, puisque s'il n'est pas titulaire, il rentre en jeu à chaque fois. Et je pensais qu'il allait peut-être suivre une pente un peu plus croissante, ouais, un peu plus ascendante en termes de physique. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est pas trop le cas. Après, on a aussi vu que quand il est. Enfin, surtout, ce qui m'a déçu, c'est qu'en général, quand il est proche de Mbappé, il arrive plutôt bien à le trouver. Et là, la relation avec Mbappé, on l'a pas du tout vu. On a joué un peu arrêté. Bon, est-ce qu'on lui a trop demandé? Peut-être aussi. J'étais un peu circonspect. Sa première mi-temps, je trouve qu'il a perdu énormément de ballons. Il touchait trop la balle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les 10 premières minutes à Nîmes, pareil, je trouvais qu'il était un peu à contre-temps. Bah là, c'était ça, c'était le Rafinha à contre-temps qui n'arrive pas à se mettre dans son match, on dirait. Et puis, la deuxième période a été mieux, il a réussi quelques jolis trucs et tout. Mais par rapport à. Je trouve qu'il a fait une bonne entrée en Turquie, 3 jours plus tôt. Et on a l'impression qu'il a du mal à avoir de la continuité à tous les niveaux, technique, tactique, physique, évidemment. Voilà, c'est un peu décevant pour l'instant, le pauvre. Bah, après, je ne l'enterre pas du tout, hein, mais c'est vrai que. Vu toutes les absences qu'il y a, je pensais qu'il saisirait plus sa chance, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Omar, ton avis sur ce bon Rafinha, le fils de Mazinho, tu en es où avec lui?
Sur le match de samedi, il n'y a rien à dire. Enfin, moi, perso, j'avais rien à dire. Je trouvais qu'il a fait une rencontre globalement pas très bonne. Pas très bonne parce que pas très inspiré, parce que peu ou pas d'existence dans le dernier tiers, et c'est ce qu'on lui demande, d'apporter de la fantaisie, un peu plus de passes créatives. Donc il n'y a pas eu ça dans cette phase de jeu. J'ai vraiment trouvé en retard physiquement, comme s'il se prenait le mur de la Ligue 1 de plein fouet. Après, c'est un joueur qui n'a pas eu de continuité tout au long de sa carrière. Qui se découvre un rôle peut-être plus important que ce qu'il attendait en arrivant, mais je trouve que là pour le moment on est loin de la meilleure version du joueur et son match de samedi, pour le coup, enfin, je trouve peut-être que je suis un peu dur, mais à mon sens totalement dénué d'intérêt. En tout cas, c'est pas ce genre de prestations qui le feront exister au PSG.
Bon, écoute, on nous demande s'il joue avec l'Espagne ou avec le Brésil. Il joue avec le Brésil, c'est son frère qui joue avec l'Espagne. Ce qui est déjà un truc un peu particulier, mais bon, les deux.
Il joue pas avec le Brésil.
Non, mais il a eu des sélections avec le Brésil, je crois qu'il a une dizaine de sélections.
Il a gagné les JO avec Neymar, si je dis pas de bêtises, non? Il était là aux JO, non?
En 2016.
Les JO, c'est pas une compétition FIFA.
oui, mais je veux dire qu'il.
Il a gagné. Un championnat U23, quoi.
Il a deux sélections avec le Brésil, ce bon Rafinha, oui.
Une de plus que
j'aurais. Effectivement, Tigno, tu as raison. Il a gagné les JO en 2016 avec Marquinhos aussi.
Ouais.
Et ouais, voilà. C'était. Oula, il y avait des joueurs, Gabriel Jesus, il y avait même l'immense.
Il y avait Gabigol.
Exactement, il y avait Gabigol.
Lucas Lima, je pense aussi.
Il devait y avoir. Lucas Lima, je ne suis pas sûr, parce que c'est un 90, lui, donc il était peut-être déjà trop vieux, à mon avis.
La finale, c'est contre l'Allemagne de Zule, je crois.
Ouais, avec l'incroyable Zule qui fait un match. Ouais. À lui tout seul, il tenait l'Allemagne, le pauvre. Mais au bout d'un moment, ça a craqué, d'ailleurs. Bon. Sur la performance de Rafinha, on a un peu fait le tour. On nous dit que son père a mis Rai sur le banc en 94. Et oui, Mazinho avait envoyé Rai sur le banc à la Coupe du Monde aux États-Unis. Mais Rai n'était pas du tout en forme, donc bon, voilà. On nous dit il n'est pas prêt physiquement Rafinha, il faut faire une préparation individuelle avec lui pendant la mi-temps. Alors pendant la mi-temps, ça va être court, mais ça doit être pendant la trêve internationale, mais c'est vrai que il était déjà censé en avoir une un petit peu lors de la précédente trêve. Mais je pense que là, le fait d'être revenu dans le rythme, de connaître d'avoir un peu plus de repères, va peut-être que le PSG va pouvoir vraiment le faire travailler physiquement durant la trêve qui arrive, parce que lui, c'est sûr qu'il partira pas en sélection, quoi. Bon, après, ils sont plusieurs du PSG à pas partir, puisque on a quand même pas mal de blessés. On a parlé d'un peu de Kays Ruiz. Tigno ou Omar, vous voulez rajouter quelque chose sur Kays Ruiz, ce rôle comme ça de relayeur gauche? Est-ce que finalement, à cet instant, c'est pas ce qu'il peut aspirer de mieux, plutôt que ce qu'on avait vu à Lens, où il avait joué encore un cran plus haut, en termes de placement, notamment? Ou toi, Mathieu, d'ailleurs, parce que t'en as pas beaucoup parlé, du placement du joueur? Personne. Ok, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Bon, on va avancer. Oui, Omar ?
Je pensais que Mathieu allait prendre la parole.
Non, j'ai beaucoup parlé. À vous.
Non, mais du coup, il n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport au fait que vous avez déjà énoncé le fait que les minutes qu'il a jouées étaient globalement plutôt positives, comme quoi il s'en fallait pas beaucoup pour un petit peu animer le milieu du PSG. Voilà, c'est un joueur qui avait beaucoup de demandes en pré-saison. Donc là, qu'il y a des minutes et qu'il les met à profit, c'est plutôt bien. Et je pense qu'il dans cette espèce de milieu technique qui va pouvoir apporter un peu de vie dans les 30 derniers mètres, il y a vraiment quelque chose à creuser parce qu'on a plein de joueurs très positionnels derrière le ballon et qui se risquent pas beaucoup. Donc lui, il a ce courage-là, il a cette capacité à déséquilibrer. Donc ça peut. Je dis pas que, comme Mathieu l'a dit justement, ça t'apporte pas 20 matchs au PSG. Mais ça te permet au moins d'exister sur une qualité que les autres n'ont pas. Et ça, quand t'es un jeune joueur dans un effectif de mecs chevronnés, c'est quelque chose de notable. Donc vraiment à revoir. Et puis il a l'air à l'écoute, donc c'est bien.
Et
Oui.
puis cette performance, Philo, elle arrive aussi après encore des paroles de Tourelle en conférence de presse, pardon, qui disait que les jeunes, c'était pas un cadeau, enfin, alors c'était pas un cadeau en jouant au PSG, il fallait qu'ils méritent leur place, qu'ils mettent à profit les minutes qu'on leur donne. Et là, ça arrive un jour après où il met vraiment à profit ces minutes-là et il fait des bonnes choses. Donc c'est bien aussi, ça montre qu'il a aussi perçu le message du coach, de l'entraîneur, de l'encadrement. Donc c'est très bien. Comme m'a dit Omar, il a l'air d'être à l'écoute. S'il peut continuer sur cette voie-là, sur le peu de minutes qu'on va lui donner dans les prochains jours, la prochaine semaine, pardon, ce serait bien. Et si les autres jeunes aussi pouvaient faire de même, ce serait pas mal.
Ouais, mais c'est bien ce que tu dis effectivement sur le message de l'entraîneur qui avait dit la semaine d'avant, les minutes, faut les gagner. Et puis là, il l'avait redit, ouais, la qualité c'est bien, mais la mentalité c'est encore plus important. Je trouve que c'est bien qu'à ce moment-là, je trouve que aussi bien Fadiga et Ruiz, on n'a pas parlé de Fadiga, mais pour moi, Fadiga, il a fait ses meilleures minutes depuis son entrée, quoi. Et Ruiz, pareil, il a fait ses meilleures minutes depuis son premier match. Est-ce que, pareil, les deux, ils s'étaient pas un peu reposés sur leur laurier, tout ça? Je sais pas, je suis pas au quotidien avec eux. Mais je trouve que le message est très positif. Après, quand tu vois après le match, Tourelle qui dit direct, non, mais c'est cool, hein, mais va falloir qu'il travaille encore dès lundi à l'entraînement, tout ça veut dire que je pense qu'il est très bien au courant que Ruiz est un gamin pétri de talent, vraiment pétri de talent, mais qui a parfois besoin d'apprendre un peu la discipline et apprendre peut-être aussi à se faire un peu mal, ne pas être trop indolent, parce que ça. Pour citer un autre Parisien pétri de talent mais qui fait pas grand-chose, pour pas suivre le chemin de Yacine Adli par exemple, qui est un joueur, un gamin qui a un talent extraordinaire mais qui, bon voilà quoi, ne fait pas aujourd'hui grand-chose de ce talent-là quoi. Pour éviter cet écueil, c'est bien de le mettre un peu sous pression, de lui permettre d'avancer, de montrer des choses. Mais globalement, moi très content de son entrée parce que il a su montrer quel joueur il est quoi. Vraiment, c'est ça, c'est montrer quel joueur il est et ne pas se contenter de trois gris-gris, deux passes à la con et être persuadé d'avoir fait un bon match parce que sur WhoScore, il y a marqué qu'il a réussi 100% de ses passes, quoi. C'est pas ça le football, quoi. Là, il a montré vraiment ce qu'il était capable d'apporter. Alors, c'est sûr que c'est plus simple de jouer avec Mbappé qui demande le ballon et qui veut redoubler les passes que de jouer des fins de match des fois avec des joueurs qui sont comme toi. Un peu rincé, où les matchs sont finis. Je pense notamment la fin de match, c'était je crois contre Angers, où il n'avait pas été bon du tout de mémoire. Enfin bref, des comme ça, des matchs où il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien. Là, il y avait un vrai intérêt, donc ça l'a peut-être aidé, ça l'a mis dans le match. Et puis surtout, les autres ont eu besoin de lui. Mais en tout cas, j'apprécie de voir ce genre d'entrée. Ce que j'ai dit pour Simon, pour Caïs Ruiz est totalement valable pour Fadiga aussi, qui fait pour moi. Pareil, ouais, son meilleur match depuis le fameux PSG Metz qui gagnait dans des conditions pas possibles avec son entrée qui avait été très bonne. Et on parle de Xavi Simons. Alors, on en parle régulièrement. C'est-à-dire que Fadiga est de 2001, il a à peine du temps de jeu. Caïs Ruiz est de 2002, il n'en a pas beaucoup plus, voire il en a autant. Xavi Simons, c'est encore plus jeune, et de 2003.
2003, ouais.
Voilà, donc 2003, ça correspond à sa première année U19. Il joue à un poste où il y a déjà deux jeunes devant lui. L'entraîneur parisien va pas prendre trois relayeurs, sachant qu'il en a déjà deux auxquels il a du mal à donner du temps de jeu. Et aujourd'hui, tant que il les voit aux entraînements tous, hein, si Xavi Simons n'a pas piqué la place de Fadiga ou de Ruiz, c'est peut-être parce qu'il est tout simplement pas aussi bon que ces deux joueurs-là. Je vais vous donner un exemple très bête, c'est que au début de la, à la reprise, le 22 juin dernier, Fadiga, il n'était pas convoqué. Fadiga, il a fait son trou lorsqu'il est venu dans les entraînements en juillet et tout ça. Simmons est venu dans plusieurs entraînements au mois de septembre. Aujourd'hui, il ne fait toujours pas partie du groupe de façon définitive. Bon, bah, je crois qu'il n'y a pas besoin de dire beaucoup plus. Et ce n'est pas une question de contrat ou quoi que ce soit, parce que je crois que de mémoire, Fadiga et Simmons sont le contrat qui se termine en même temps. Donc, c'est pas. Voilà. C'est juste qu'il faut laisser le temps au temps, tout simplement, et qu'il il aura largement du temps de jeu d'ici la fin de la saison, Xavi Simmons, normalement. Enfin, il n'y a pas de raison qu'il n'en ait pas s'il continue sa progression, mais c'est, voilà, c'est tout. Une place, ça se fait à l'entraînement. C'est pas comme s'il y avait pas, il y en avait pas en ce moment, quoi. Donc, et puis je crois pas qu'il y ait une volonté spéciale du coach de pas les faire jouer. Hein. Au bout d'un moment, il en fait jouer un ou deux à tous les matchs ou presque. Donc, et la question d'ailleurs me semble être un peu la même pour le malheureux Timothée Pembélé qui fait partie du groupe pro, ce qui est déjà bien, mais qui n'a pas encore eu la chance de jouer. Et non, Simone, c'est, enfin, ça dépend ce qu'on appelle en retard, mais un gamin de 17 ans à peine, c'est normal qu'il soit moins développé, moins prêt qu'un gamin de 19 ou 20, quoi. Donc, c'est tout, quoi. C'est, voilà, comme le dit ce bon Doumé sur live, être jeune au PSG, c'est une question d'opportunité avant tout. Bah, faut croire qu'il n'a pas jusque-là pas su la saisir, mais c'est pas grave, il a 17 ans, quoi. Donc, ça va venir, tout simplement. Oui, Omar ?
Il est en retard sur rien du tout, en fait.
Il est très en avance, même.
Des graves.
Je comprends pas trop l'excitation pour le voir absolument jouer avec les pros. Enfin, pour ceux qui l'ont vu jouer, notamment l'année dernière, Xavi Simons, s'il fait son trou en U19, juste avant le confinement. Avant, c'était un joueur totalement... Enfin, il était discontinu, quoi. Il n'arrivait pas sur les rencontres, on parle de match de 19.
Ouh là là, ça coupe complètement.
Là,
on
le propulsé dans des matchs pro.
Allô,
enfin, c'est cramé qu'autre chose. Allô,
oui, non, en fait, on t'a très mal entendu. Pour ceux qui n'ont pas entendu, c'était en gros, tu disais que oui, l'an dernier, Xavi Simons.
C'est Mino Raiola qui a coupé ma connexion.
Non, mais oui, la première partie de saison de Xavi Simons, c'est très quelconque, parce que bon, il arrive avec des espoirs énormes, mais il était tout jeune. Mais c'était pas du tout le. Enfin, en première partie de saison, il est pas plus brillant que ça, quoi. Comme tu dis, il s'installe vraiment sur la seconde partie de saison où il prend une belle envergure. Là, il confirme. Mais on parle d'un gamin de 17 ans qui joue en U19. Jouer en U19, déjà, jouer en réserve, pour certains, c'était un gap non négligeable. Et là, on parle de jouer en Ligue 1 avec le PSG. Donc, c'est encore un gap énorme, quoi. Donc, voilà, c'est pas... Enfin, je sais pas... Enfin, faut bien réaliser que l'écart entre le championnat U19 nationaux... On parle même pas de la Youth League, hein, là. On parle du championnat U19 nationaux et la Ligue 1. Enfin, c'est... Il y a des dizaines de joueurs qui ne joueront jamais en Ligue 1, voire même jamais en Ligue 2, qui sont pourtant titulaires et même des fois performants en U19 nationaux, quoi. Donc c'est pas un truc automatique. Après, bien sûr qu'il a un talent fou, enfin peut-être pas un talent fou, ça, il a beaucoup de talent, mais c'est pas non plus... Enfin, la Ligue 1, c'est pas un championnat facile. Vous avez des joueurs comme Rafinha qui montrent des fois des difficultés au niveau physique, et il faudrait qu'un gamin de 17 ans et du temps de jeu, mais voilà, quoi. C'est pas, puis comme on dit, c'est pas peut-être pas le moment de balancer des matchs, quoi. Enfin, Omar l'a dit tout à l'heure, si la championnat s'arrête demain, qu'on n'est pas premier, qu'on n'est pas champion, on passe pour des couillons, quoi. Donc c'est peut-être pas le moment non plus, quoi. Voilà. Pour revenir sur vous voulez rajouter quelque chose sur les jeunes, Titi, sur Fadiga ou sur Ruiz ou autre d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup parlé.
Non, c'est bon, je pense que je suis à peu près... j'aurais dit la même chose que toi sur Fadiga, la même chose que j'ai dit sur Ruiz, donc non, c'est bon.
Oui, et c'est vrai qu'on me signale que Fadiga, effectivement, il a déjà 19 ans, et je crois même que c'est un février 2001, donc il a bientôt 20 ans. Il commence seulement à jouer au PSG, quoi, pour vous donner un peu une idée de la maturité. Ouais, 15 janvier 2001, Fadiga. Donc il a bientôt 20 ans. Il faut lui laisser le temps, quoi. Et je ne sais pas si les U19 s'entraînent pendant le confinement, je ne suis pas totalement certain.
Ouais, je t'avais posé la question,
ouais,
mais ils s'entraînent pas, je pense.
Je suis pas sûr, parce que effectivement, en théorie, le camp des loges est fermé, et comme ils s'entraînent là-bas, je vois pas comment ils peuvent s'entraîner, quoi. Bon, ils s'entraînent pas, m'a dit Omar. Donc non. Voilà, t'as la réponse. Bon, bah donc ça va pas aider, peut-être qu'ils vont les intégrer un petit peu au groupe pro pour leur donner un peu de comme ça du rythme, mais bon, c'est pas terrible pour eux non plus, quoi. Est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler sur ce PSG Nantes, enfin ce Nantes PSG, pardon. Je sais pas, peut-être un petit mot quand même sur, sur Sarabia. Moi, je trouve que c'est un joueur. Ou Danilo, peut-être. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a quelques joueurs dont, dont on doit parler un peu quand même. Enfin, notamment le fait que Sarabia réussisse à remarquer. Je trouve qu'on avait parlé un peu de sa perte de confiance ces dernières semaines. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un peu de mieux. C'est pas non plus redevenu le joueur de février où il arrivait avec pas grand chose, il arrivait à faire des passes décisives. Mais. Mieux, non? Ou je suis le seul à trouver que ce bon Pablo semble être un petit peu mieux quand même?
Non, c'est pas foufou non plus encore pour Sarabia, mais il y a quelques moments où il fait de bonnes choses, où on retrouve la qualité qu'il a parfois montré par un moment l'an dernier dans le jeu, dans les passes, dans sa capacité à être décisif. On a parlé tout à l'heure de l'action de Mbappé, la deuxième, où il fait un bon débordement. Il arrive enfin, je dirais, à éliminer un joueur et un bon centre pied droit un peu en retrait vers Mbappé, qui aurait dû, je pense, se terminer au fond. Et il y a son but. Je crois que c'est son deuxième là, depuis le début de la saison. Je sais pas si on a... Voilà. Donc c'est bien s'il arrive à retrouver un peu de confiance dans les derniers gestes, au niveau de la passe, au niveau du but. Après, je pense qu'il doit encore faire plus. Dans ce genre de match-là où on parle de première mi-temps indigeste, etc. Lui, ça, je dis pas que c'est un cadre de l'équipe ou du vestiaire, mais c'est quand même censé être un joueur chevronné, un joueur expérimenté. Et dans ces moments-là, il doit aussi sortir la tête de l'eau. Et si le jeu, comme tout à l'heure disait Omar, que Mbappé était surresponsabilisé dans le jeu par moment, etc. C'est aussi parce que des joueurs comme Sarabia par moment n'arrivent pas à prendre leur responsabilité et à faire mieux que ce qu'il nous montre depuis un moment. Donc oui, il y a des bonnes choses, oui, c'est un peu mieux, mais notre curseur doit être beaucoup plus élevé pour ces joueurs-là qui, je pense, doivent faire mieux en ce moment, quoi.
C'est ce qu'on dit sur live, c'est que c'est mieux, mais c'est pas non plus du... Quelques bons trucs, mais c'est vrai qu'on signale qu'il a quand même, il aurait pu faire deux passes décisives à Mbappé, ce qui est vrai que c'est... Il arrive
une seule,
à...
non? C'est quoi la deuxième?
Bah, il y a celle sur le centre et il y a celle, je pense, il doit parler du pénalty peut-être.
Ah, d'accord, ok, pardon.
Bon, après, il y a une personne qui lui en veut pour le poteau. Le poteau, vu comme ça lui arrive, enfin, il fait ce qu'il peut, quoi. Déjà, attraper le poteau, c'est pas si mal, je trouve.
Il est au bon endroit, au bon moment. Franchement, il est dans la bonne zone. Il tente de la mettre pied droit dans un angle presque impossible. Non, sur celle-ci, on peut pas. Bon, c'est pas trop lui en vouloir.
Ouais, non, on me dit que les responsabilités, c'est pas à lui de les avoir. Il remplit son rôle quand Di Maria n'est pas là. Alors, il peut quand même faire mieux.
Non, il peut faire mieux quand même.
On parle d'un international espagnol.
C'est ça.
Voilà, on parle pas de Christophe Landrin qui remplace Ekalou. C'est ce
que je voulais dire. C'est quelqu'un qui était appelé en sélection espagnole. C'est quelqu'un qui est chevronné, qui a quand même de l'expérience, qui a fait des grosses saisons en Espagne, des saisons presque en double-double, en double-double. Donc, il y a des matchs où il doit quand même montrer mieux les responsabilités. Il doit les prendre quand sur le terrain, il est offensivement, il n'y a que Mbappé, lui et Kean. Enfin, c'est pas normal qu'il ne fasse rien, mais là, il n'a pas rien fait, j'abuse. Mais il doit prendre ses responsabilités, lui aussi. Et quand on parle des joueurs qui ne sont pas à leur niveau depuis un moment, quand on parle de prestations indigestes, c'est aussi parce que ces joueurs-là ne prennent pas leurs responsabilités, quoi.
Et puis, un truc tout bête, c'est qu'il est en concurrence pour aller à l'Euro. C'est pas que des matchs comme ça qui va à l'Euro, quoi, tout simplement. Enfin, il y a le contexte PSG où effectivement on attend plus parce que certains sont pas là, tout ça. Mais lui, s'il veut aller à l'Euro, j'espère qu'il se contente pas de ça, quoi. Après,
il aura. Je t'arrête, Philo, il a aucune chance d'aller à l'Euro. Hein, ça va bien. Ouais. La concurrence qu'il y a entre Adama Traoré, Ferran Torres,
écoute, avant que Luis Enrique revienne, il était dans la liste. Hein. Il était dans la liste et Robert Moreno.
Il a été appelé une fois.
Il a été appelé
en 2019 après son arrivée.
Non. Après, il a été rappelé et tout. C'est juste que Luis Enrique, c'était Robert Moreno qui le voulait et qui le faisait jouer. Et il avait fait 2-3 bons matchs, mais disons que le retour de Luis Enrique lui a été fatal, un peu comme à Bernat. Après, vu le nombre de blessures qu'on va avoir cette saison, il a intérêt à rester prêt jusqu'au bout, hein, parce que lui, on peut pas lui enlever ça, il est toujours là. Donc bon.
Il est fiable.
Ah, très très fiable. Il y a 3 sélections, me dit-on. Ouais, c'est ça, je crois. Je me demande s'il. Une passe décisive, il me semble. Je sais plus contre qui, mais j'ai un souvenir d'une passe D. Vous voulez rajouter un. Bon, on a un peu fait le tour, je pense, de l'ami Sarabia, parce que c'est pas non plus un grand débat. Juste un petit mot sur le match de Danilo en défense centrale ou pas? Mathieu, on t'avait pas entendu après l'Istanbul parce que tu ne pouvais être disponible. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match de défenseur central de Danilo?
Déjà, juste un mot, on sent la ligne éditoriale du podcast qui ne veut pas parler de son compère en charnière centrale.
Ah non, non, mais. Ah oui, non, vas-y, on peut en parler aussi. Hein. Bah, non, il a été nul, alors, on peut le dire. Hein. Enfin, oui, voilà, Diallo, il fait un match. Non, non. Mais...
Bah, disons qu'il est sur la photo. Quand il se fait éliminer par.
Colomoini lui a laissé sa carte de visite, hein, j'ai envie de te dire.
C'est ça.
Ah oui, ça, c'est sûr.
C'est sûr. Donc là, forcément, c'est un peu ce qu'il reste de son match. Mais sur Danilo, bah, je dirais qu'il a fait des. Il s'est imposé là où tu l'attends, c'est-à-dire sur au duel physique et au duel aérien, on va dire. Mais sur sa seule action de défenseur, il se fait avoir, pour moi. C'est quand sur il laisse attaquer.
Colomoini, ouais. C'est ça, la frappe de Colomoini,
c'est ça, quand
il l'élimine. Okay, ouais.
Bah, c'est pas quand il l'élimine, c'est juste qu'il le laisse avancer, oui. Et lui il recule et c'est surtout ça. il lui ouvre l'angle de frappe. C'est un peu, bah, c'est, si tu veux, c'est la même erreur que Diallo a faite face à Manchester United un peu en début de match face à Martial. Pareil, il recule, il lui ouvre l'angle. Mais si tu veux, c'est pas parce qu'un autre un défenseur central de métier a fait cette erreur que ça, c'est pas une erreur. Enfin, ça reste une erreur malgré tout. Donc. C'est, je sais pas, si tu veux, c'est attendu qu'un joueur avec ses qualités physiques là, dans des matchs où globalement tu as géré des miettes, qui s'impose physiquement, t'es pas surpris quoi. Mais sur des actions, on va dire plus tactiques ou plus de gestion vraiment de décisions à prendre en fait de défenseur central, là il y a quand même plus de doutes. Et sur des petites actions comme ça, moi c'est un peu ce qui me laisse quelques doutes, oui. Après, sur la relance, on l'a vu faire
J'allais le dire, ouais.
Bah, on l'a vu faire 2-3 bonnes passes vers l'avant. On l'a aussi vu faire. On l'a aussi vu envoyer une bonne mine en touche. Et en début de deuxième période, pareil, il y a une passe courte qui est ratée à la relance. Ensuite, ça part en contre. Mais donc voilà, je sais pas, c'est un match. Dont tu retiens pas forcément grand chose. Il a fait ce qu'il a eu à faire. L'action, il est pas tout blanc. Elle se traduit pas de façon décisive pour Nantes. Mais le reste, rien à signaler, je dirais.
On me dit sur le live, c'est pas son poste, mais il s'en sort bien grâce à l'expérience. C'est un peu ce que tu déduis, quoi. L'expérience et ses qualités naturelles, quoi.
Oui. Ouais, voilà. C'est comme si tu mettais Abou Diarra en défense centrale. J'imagine qu'il a dû jouer quelques matchs aussi à ce poste. Même si tu mettais Nzonzi pour la comparaison de Simon, bah, j'imagine que tu peux avoir ce type de résultat, ce type de travail fait. Quoi. Après, tu veux le grand test, il est après-demain, ça c'est évident.
Bien aimé non, son action avant de sortir, là, quand il se fait pas avoir sur le côté, qu'il gère bien Colomoini la course, ça où il y avait quand même un certain
défi. Dagba revient sur cette action.
Ouais, mais
non, il le gère bien quand même. Ouais,
moi, je trouve qu'il le gère bien.
Il gère bien sa course. Hein. Il gère bien sa course et ça permet du coup de laisser du temps à Dagba pour revenir. Moi, je trouve comme ça en tout cas.
Mais du coup, est-ce que cette course-là, il peut pas la faire en tant que milieu de terrain? Parce que moi, on m'a vendu un joueur qui est soi-disant pas du tout mobile et extrêmement lent.
Je sais pas.
Si tu me dis qu'en même temps, il est capable de faire cette course-là, je sais pas. Je trouve qu'il y a des incohérences aussi hein, dans ce qu'on raconte un peu autour de ce joueur. Et d'un joueur, on va dire, il faut être honnête aussi. Et là, il y a quand même beaucoup de malhonnêteté de la part de tout le monde. C'est que, à part les suiveurs de la Ligue portugaise, tout le monde le découvre, Danilo.
Mmh. Oui, non, moi,
oui, totalement. À part les matchs du Portugal dans sélection, on n'en a pas vu non plus 30. Donc oui, moi, je le découvre totalement. Oui, y a pas...
Position sur certains points, c'est un joueur que tu découvres et que tu découvres.
Oula, on l'a perdu lui aussi. Disons qu'on en perd aujourd'hui. Reviens, Mathieu, reviens, on t'aime.
Totalement perdu.
Bon, il va revenir, on a l'habitude. Omar, tu rajoutais quelque chose sur le match de Danilo, le temps que l'ami Mathieu revienne?
Je ne vais pas pouvoir t'aider, j'ai rien à rajouter.
Bon, très bien. Écoutez, je pense que...
rame encore un petit peu, Mathieu, ça arrive.
Il est coincé dans un tunnel, le pauvre. Reviens, Mathieu, on t'aime.
De cette page, je veux dire d'acheter le livre, hein, du coup. 39€, ça sort le 9 décembre.
On n'est même pas sûr et certain la date de sortie, mais normalement, c'est le 9 décembre. On nous dit Navas, il est droit, mais San Keylor, laissez-le où il est, on a trop besoin de lui, quoi.
Mais on peut en parler aussi.
Oui, bien sûr.
Rapidement. C'est Tourelle qui disait en conférence que c'était un cadeau pour le Paris Saint-Germain. Bah, samedi, bon, il a pas, je crois qu'il n'a pas énormément d'arrêts à faire, il en a quelques-uns quand même, mais pas énormément. Mais ben, il sort le pénalty cette fois en étant bien sur la ligne, en étant même à l'intérieur de son but. Je ne sais pas si vous avez vu l'image où il se met à l'intérieur de son but pour pouvoir gicler un peu et avoir le pied sur la ligne. Voilà, un arrêt, je ne peux pas dire de grande classe, mais quand même, il le sent bien, il le sort bien. On sait qu'il est très bon dans cet exercice-là. On a un peu connu comme ça, moi à l'époque, en tout cas à la Coupe du Monde avec le Costa Rica. Donc non, c'est un arrêt qui nous permet de ne pas prendre, j'allais dire, la pression. Non, il y a pas non plus des supporters à la Beaujoire pour mettre la pression qu'on aurait eu s'ils avaient marqué à 2-1 dans un contexte normal. Mais quand même, ça nous permet de rester à 2-0, de finir ce match tranquillement, de mettre un troisième. Voilà, c'est des petits moments comme ça qui sont au final importants dans un match. Il y a quelqu'un avec une telle expérience qui nous permet de rester à flot et de pas faire couler le navire, c'est bien.
C'est très bien. Après, non, il faut quand même le dire, il est sur une série en termes de pénalty qui est assez folle. Hein,
parce que
il en sort beaucoup. On espère qu'il sera aussi en forme ce mercredi, parce qu'il est possible qu'il ait un peu de travail, le jeune homme. Qui est plutôt jeune, mais qui est toujours aussi bon, en tout cas.
Et on n'a pas dit Philo, mais il était capitaine. Enfin, c'est un non-événement, mais...
Non, si, c'est pas un non-événement. Bah, après, le truc, c'est qu'il y avait... Enfin, bon, le premier capitaine, c'est Marquinhos. Le deuxième, c'est Kimpembe. Les deux étaient sur le banc de touche. Il y a eu Verratti qui a été capitaine à Lens, mais il n'était pas là. Donc, on ne sait pas exactement dans la hiérarchie où il est. Il y a Neymar qui a été capitaine contre... c'était qui déjà? C'était Dijon, non? Oui, c'est Dijon, contre Dijon. Et là, Navas était là. Non, c'était Rico dans les buts contre Dijon. Oui, c'était Rico. Donc, en gros, il est le troisième, quatrième du PSG. Et puis, c'est un secret de polichinelle. C'est un peu le patron du vestiaire. Quoi. Donc, à partir de là, il est légitime comme capitaine. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il ne parle pas très, très bien français. Que ça peut être un peu problématique en Ligue 1, notamment, ou vis-à-vis de certains partenaires ou autres. Mais bon, globalement, il est totalement... il est dans le rôle, quoi. Il a l'envergure, il a tout, il a l'expérience, il a les performances,
il protège ses coéquipiers.
Franchement, il a tout.
Je sais pas si t'as vu, c'était marrant quand Marquis est rentré, il a demandé s'il lui donnait le brassard ou pas. Il lui a demandé et Marquis lui a dit non, c'est bon, tu peux le garder.
Ouais. Enfin voilà, il rentre, il y a 2-0.
Ouais.
Il n'y a pas besoin de tout changer, quoi. C'est clair, quoi. Mathieu, tu es de retour ou pas? Et tu l'as, l'enfant terrible de numéro 2.
Bon. Alors Danilo, le match de Danilo.
Non, mais qu'est-ce que tu voulais dire sur Danilo, le fait qu'on le connaissait très peu, c'est ça?
Vous avez bien fait de passer à autre chose.
Bon,
toutes
allez.
Mes excuses.
Oh, non, mais c'est pas...
Très bon match de Navas, évidemment.
Ah, San Keylor. Bon, on a fait le tour, je pense, sur ce Nantes PSG. On a parlé d'un peu tout ce qu'il fallait parler. Puis globalement, c'est pas non plus le match du siècle. Hein. Voilà. On va attaquer la deuxième partie de l'émission avec la rencontre de mercredi soir entre le Red Bull Leipzig, même s'ils tentent de faire croire que ça ne veut pas dire Red Bull, mais Rasenball, on n'est pas dupe, on sait ce que ça veut dire. Rasenball Sport, machin, là, on sait que vous avez acheté un club, bref. Et le PSG, la rencontre se joue en Allemagne, puisque c'est le match... aller entre guillemets de la phase de poule entre les deux clubs. C'est un peu notre Napoli version 2020, si je peux me permettre, puisque c'est à l'époque ça avait déjà été comme ça, à savoir les deux confrontations coup sur coup. On me dit mes amis sont de retour, mais oui, les mangeurs d'enfants, tout à fait. Et encore, là ils sont dégoûtés, les matchs sont à huis clos chez les gamins, je peux vous dire qu'ils sont en manque. Hein. Bref, quelle composition attendre pour cette rencontre? Qui veut se lancer? Déjà côté PSG, on peut s'attendre le 4-3-3 qui a été annoncé, vous y croyez ou pas forcément, messieurs? Qui veut en parler de ce 4-3-3? Mathieu, Omar, les rois du tunnel? Non, Mathieu, oui?
Bah, il n'y a pas beaucoup d'autres choix, non?
Je sais pas.
T'imagines Sarabia titulaire à la place de l'un des milieux?
Non, moi, c'est
ça, ça ferait des options très courtes, hein, seulement après.
Après, moi, ce à quoi je pensais, c'était plutôt le rôle un peu Neymar qui avait joué en 10. Tu le confies, donc quand je parle du match de Ligue des Champions, tu le confies par exemple à Di Maria et tu joues une sorte de 4-4-2, peut-être losange, avec Di Maria en faux 9, Mbappé à gauche et Keane ailier droit, quoi. Pour moi, tu as aussi cette possibilité. Mais j'y crois pas beaucoup. Hein,
il y a plusieurs façons aussi de regarder le match face à Leipzig. Parce que si tu regardes un peu la façon dont ça s'était déformé, tu voyais Herrera et Paredes qui étaient deux relayeurs du jour. qui avait un rôle très différent. Tu avais Herrera qui jouait beaucoup plus proche de Neymar, entre guillemets, entre les lignes, et Paredes qui était plus un joueur qui attirait à lui le pressing adverse et qui se mettait sur la même ligne que Marquinhos, mais un peu axe gauche. Est-ce que le même plan est reproduisible, entre guillemets, sans les mêmes interprètes? C'est là où le bas blesse. Est-ce que Paredes est apte pour le match passé mercredi? Est-ce que, pour le match mercredi, pardon, est-ce qu'on serait en mesure de le risquer? Je sais pas, ça me paraît un peu juste aussi. Donc, à partir de là, tu t'adaptes et je sens poindre et je sens venir le milieu Marquinhos Gaillera personnellement.
Et ça me fait peur parce que Nagelsmann, il a dit, je crois, ce week-end, que le but était de mettre un peu la pression au PSG, et je pense qu'ils ne referont pas la même erreur de laisser Paredes en rampe de lancement, même si là il sera en plus pas là, et on aura des joueurs qui sont très très, j'allais pas dire mauvais, mais pas très à l'aise sous pression.
On fait la liste des 7 joueurs plus défensifs que le PSG risque d'aligner mercredi, hein. Il y en a aucun qui peut jouer sous pression, hein.
C'est ça, donc c'est ça qui me fait peur,
peut-être.
À part Kimpembe, peut-être, et voilà. Mais Florenzi est bon avec le ballon, ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais en tout cas, le milieu de terrain, la triplette que vient d'annoncer Mathieu, avec le ballon, elle fait très peur. Et il suffit d'une perte de balle pour nous mettre dans la sauce. Donc, ouais, ça me fait un peu peur, cette confrontation-là avec ce milieu de terrain-là, avec le pressing qui est annoncé par Nagelsmann. Tout à l'heure, Philo, t'as mis un tweet sur Sabitzer et les kilomètres parcourus.
Alors extraordinaire, Marcel Sabitzer. Il n'a pas joué un match de la saison, il arrive, il fait 12 bornes, bim. Pour vous dire, voilà, 12 bornes, c'est un peu du Ghana Gay dans les meilleurs jours, quoi. C'est un truc...
C'est le Ghana Gay face à Madrid, ça.
C'est ça. Je crois que Ghana Gay face à Madrid, c'est encore plus, c'est genre 12,5 ou presque 13, pour vous donner un peu le match ultime de Ghana Gay. Bah lui, il fait ça en revenant de blessure, quoi. C'est un truc, j'ai fait 120 bornes parcourues. Bon, après, ils ont perdu quand même, mais bon. Puis c'est un match de Bundesliga, mais bref.
C'est normal pour eux.
Ouais,
c'est le genre de choses qui me fait peur. Comment on va réussir à sortir de ce pressing-là? Quel type de match on va faire? Qu'on va être attentif? Enfin, j'ai un peu peur de ça, ouais.
Mais donc,
disons que c'est difficile d'imaginer Nagelsmann ne pas venir te chercher, hein, sur un match comme après-demain. Surtout vu la façon dont il a perdu le match en août, où il s'était trompé d'approche, il avait trop respecté le PSG, entre guillemets. Là, avec l'équipe que risque d'aligner le PSG, c'est presque une invitation à venir te chercher et à venir isoler les trois attaquants, parce que c'est assez facile à faire si ta pression est plutôt pas mal, comme l'avait pu faire Manchester United, alors que tu jouais avec Neymar, donc... Ça, c'est le grand danger qui guette le PSG. Et tu sais que tu n'as ni la réponse individuelle en termes de qualité de joueur pour sortir sous pression, ni la réponse collective, tactique, de mécanisme, on va dire, intégré par les joueurs. Donc, ça, effectivement, c'est un peu la grande inconnue d'un match comme mercredi, si jamais Nagelsmann décide de changer son approche par rapport à Out.
Ouais. Je pense que Nagelsmann et Leipzig, ils ont intérêt à ce que ce match parte dans un match de, entre guillemets, de ping-pong. Je pense pas qu'on arriverait à tenir déjà le rythme physiquement.
Mais sans parler de ping-pong, ils peuvent t'enfermer dans notre camp. Hein.
Oui, aussi. Ouais.
Ouais. Alors,
couper les relances, enfin couper les contre-attaques.
Après, ils ont un vrai problème ils ont un vrai problème de présence dans la surface, de réalisme, même de création d'occasion. Par exemple, ce week-end, ils ont pas mal eu le ballon à Gladbach, ils ont pratiquement pas eu une occasion du match, quoi. Ils ont
c'est
eux aussi
de comparer parce que
oui, je suis d'accord.
Manchester United est 15e de Premier League, c'est ça?
Ouais, à peu près.
Ouais.
Et t'as vu
ouais.
le match qu'on a fait contre eux, hein.
Oui, non, je suis d'accord. Après, United est souvent pris au piège du... où ils sont en difficulté quand ils doivent attaquer, qu'on leur donne des responsabilités offensives. Ils sont beaucoup plus à l'aise quand il s'agit de contrer et tout ça. Mais bon, je suis d'accord que c'est compliqué de comparer la Bundesliga et l'Europe. Mais tu vois, ce que je décris là, les difficultés à se créer des occasions, une possession un peu stérile, tout ça, ils ont eu le même problème à United, Salzbourg, par exemple. Ils ont pratiquement pas eu une occasion au final là-bas, quoi. Donc, est-ce que coincer le PSG, entre guillemets, tenter de mettre le match dans la moitié de terrain du PSG, quitte à ce que le PSG joue peut-être le contre, tout simplement, quoi, là, un peu la carotte quant à Mbappé éventuellement devant ou Keane, qui peuvent être servis par Di Maria, c'est pas forcément. Si le PSG se sent. Bon, après, c'est vrai que vu nos spécimens en défense, vaut mieux avoir le cœur bien accroché. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir. De les laisser venir dans ton camp, voire de leur laisser le ballon, pour ensuite les contrer, quoi. Parce que si c'est. Alors, par contre, si tu pars dans un match où il faut aller d'un but à l'autre, là, ils vont nous faire exploser en 25 minutes. Ça, c'est sûr.
Ah bah certain, ouais. Quoi. Si c'est le même match qu'en Turquie, franchement. Je pense qu'on explose, hein. On explose avec notre fameux 6-4 défensivement, même si là on l'aura sans doute pas, vu que Ney n'est pas là, mais peut-être on va défendre à 7 déjà. Mais ouais, si on refait le même match où ça part dans tous les sens, où nos joueurs n'arrivent pas à suivre physiquement les contres de l'équipe adverse, je pense que là on explose. Il y a quand même un peu plus de qualité que face à que l'équipe turque, que Başakşehir.
Beaucoup donc, plus ouais, de qualité, même, ouais.
Ouais, beaucoup plus, je pense que. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce match-là et j'espère que ça n'arrivera pas.
Non, mais il faut pas. C'est sûr que globalement, ce qu'il y a de pire face à une équipe de Bundesliga, c'est partir dans un match où ça va d'un but à l'autre et où ton équipe est coupée en deux. On est d'accord.
Sauf que moi, j'ai l'impression qu'on est une équipe de Bundesliga par moment.
Bah oui, mais parce que tu ne regardes pas assez, c'est pour ça. Je peux te dire que si vous regardez jouer Schalke certains week-ends, tu te demandes mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Est-ce que c'est du football, ça, vraiment? Non, mais est-ce qu'on sera capable de faire comme en fait, où on a été très fort au mois d'août, c'est qu'on a réussi à contrôler le tempo en permanence. Et le problème de Leipzig et de beaucoup d'équipes allemandes, c'est que quand ils peuvent pas jouer vite, ils sont vraiment en difficulté. Et moi, je me demande si on va pas tenter Paredes dès le coup d'envoi, ou Rafinha peut-être, même s'il est vraiment dans un drôle d'état, justement parce qu'on va avoir besoin d'une personne qui sait gérer le tempo, quoi. Après, s'ils sont pas aptes, ils sont pas aptes, et puis tu joues autrement, tu t'adaptes. Mais est-ce qu'on va pas en avoir besoin rapidement, genre, ou peut-être les voir rentrer dès la 45e ou dès l'heure de jeu? Mais ne pas laisser entre guillemets le match s'installer dans un rythme où plus le rythme va monter, plus on va être en difficulté, et plus eux ils vont être à l'aise, quoi. C'est vraiment la maîtrise du rythme, un peu aussi la maîtrise du tempo du ballon, vraiment. C'est pour moi un vrai souci, quoi. Après, en termes de talent, normalement, il y a quand même. Enfin, tu dois gagner. Enfin, je sais pas si tu dois gagner, mais tu dois au moins ne pas perdre, quoi. Ils ont quand même des absents importants en défense centrale. Klostermann qui est pas là, c'est un gros point faible. Visiblement, j'ai pas eu le temps de tout revoir là aujourd'hui sur la presse allemande. Mais Mukiele est revenu à l'entraînement, mais pas Alstenberg. Donc ça veut dire qu'ils pourraient jouer quand même à 3 derrière. Bon, voilà.
C'est la façon dont Leipzig pourrait jouer. Il faut peut-être repartir de la deuxième mi-temps qu'ils avaient faite contre nous. Vu que Nagelsmann avait fait trois organisations différentes sur ce match-là. Et la compo de la deuxième période, c'était un 3-5-2 avec un doublette d'attaque. Hein. C'était Poulsen, Schick en attaque. Donc peut-être qu'il va repartir de cette compo-là.
Ils ont plus Schick, justement.
Non, mais je ne sais pas presque les attaquants qu'ils ont. Peut-être Zorlot et Wang, et Kluivert, je ne sais pas.
Si... Wang, Zorlot.
Wang.
Bah, Wang.
Poulsen et Wang, non?
Enfin, aujourd'hui, les joueurs que vous citez, ils jouent presque pas, quoi. C'est ça le truc. Donc, ils ont un vrai problème de réalisme.
S'ils ont que Poulsen, effectivement, c'est dur de les voir marquer un but.
Là, ils ont pas marqué. Bon, après, ils avaient quand même pas mal marqué cette saison. Mais c'est vrai qu'il y a eu Dani Olmo aussi a joué un peu. Il y a Forsberg aussi qui joue de temps en temps. Mais ils ont pas non plus des. Je trouve qu'ils ont beaucoup perdu en attaque entre Werner et comment il s'appelle.
Schick.
Pour vous dire, ouais. Cette saison, il n'y a pas un mec chez eux qui a mis plus de 2 buts, quoi. Les deux mecs qui ont mis le plus de buts, c'est Forsberg et Poulsen. Et Angelinho, le fameux doublé contre.
Le doublé, ouais.
Voilà. Et sinon, il y a.
Nous, à part Mbappé et Keane, tout le monde a 2 buts aussi, quoi.
Bah oui, mais nous, t'as quand même un mec qui en a mis 7 et un qui en a mis 4, quoi. C'est pas mal. Hein. Enfin, dis-toi.
Non, c'est pas mal. C'est pas mal de Mbappé, c'est clair.
Bah oui, forcément, Mbappé, il est super fort. Mais bon, ce que je veux dire chez eux, c'est que t'as. Bon, Sabitzer en a mis un, mais t'as pas non plus. Tu te rends compte qu'il y a que deux attaquants chez eux qui ont marqué, quoi. Nkunku, il a pas mis un but de la saison. Dani Olmo non plus. C'est pas. Enfin, je trouve que c'est assez parlant sur leurs difficultés au moment de conclure, quoi. Et ça, c'est quand même un point qui est plutôt en notre faveur, quoi. Donc, faut pas. Moi, j'essaie de trouver des points positifs, Omar.
Mais tu découvres pas qu'on a beaucoup plus de qualité que Leipzig ni que United.
Moi aussi.
J'ai
absolument pas peur de Leipzig, bien entendu.
Mais toi, tu les chasses de tes terrains, donc forcément, t'as pas peur. Je sais pas. Et dans la façon que vous voyez, dont vous voyez le match, ou sur la compo même, qu'on peut, on va finir un peu la vision du match. Mathieu, Omar, comment vous voyez ça, vous? Un peu comme ce qu'on a expliqué avec Titi, un peu, ou pas du tout?
Moi, j'ai un peu de mal à croire que ça puisse s'orienter vers un match de ping-pong. Parce que pour ça, il faudrait mettre beaucoup de rythme. Et je pense que nous, on n'en est tout simplement pas capable. Donc, on n'est pas outillé pour ça. Par contre, oui, c'est sûr que si Leipzig décide de nous mettre très bas et très grave, si Mbappé pourrait attaquer, ils n'ont pas moustillé pour faire la correction. Il pourrait être expulsion. Allô?
Ouais, allô. Non, ça a coupé à moitié. On a eu des bouts de phrases. On a compris qu'en gros, Mbappé pouvait sanctionner la profondeur s'il décidait de jouer très haut, quoi, si j'ai bien compris. Mais après, il nous manque un petit bout aussi au passage.
Après, il est isolable, hein, et ils peuvent très bien se dire que c'est la seule menace offensive, entre guillemets, du PSG, et faire, entre guillemets, une cage autour de lui. Moi, du coup, c'est plutôt l'aspect défensif qui m'interpelle. Le dénommé Angelino, il joue dans quelle position?
Alors, piston. Soit il joue arrière-gauche d'une défense à 4, soit il joue piston d'une défense à droite. À 3, pardon.
D'accord. Donc, c'est typiquement un joueur qui pourrait tracer un appel entre Florenzi et Danilo.
Par exemple,
oui.
Ouais. Oui. Ok. Donc, ça, à mon avis, c'est quelque chose à surveiller. J'ai pas revu le match contre Manchester, mais il l'a beaucoup fait contre Başakşehir, parce que c'est un joueur qui est dynamique, qui est très vif sur les premiers appuis, et qui arrive à se retrouver de sa position excentrée très 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 rapidement devant le but. Et ça, pour une équipe qui est aussi large que Leipzig, qui vraiment utilise l'intégralité de la largeur, avoir un joueur de plus qui est capable de s'incorporer. C'est peut-être pour ça aussi que les attaquants marquent peu. Peut-être qu'ils sont là justement pour créer des fausses pistes pour ces joueurs extérieurs-là. Après, je n'ai pas assez vu Leipzig, je me pose juste des questions. Parce que pour moi, Poulsen, c'est juste leur récepteur de jeu direct. Ce n'est pas à lui qui demande de conclure, parce que je ne pense pas que ce soit un joueur de qualité, entre guillemets, Ligue des Champions, pour marquer sur le peu d'occasions. Mais par contre, il existe, il a beaucoup de présence dans la surface et il ouvre un nombre d'espaces colossal, de par sa présence physique et de par ses mouvements. Donc, il va falloir que collectivement, on trouve des solutions pour bien fermer les couloirs. Et ça, pour le coup, c'est une vraie nouveauté cette saison. On n'a pas été confronté à une équipe aussi large que Leipzig, et qui attaque avec du nombre. Ils mettent constamment 4 à 5 joueurs dans la surface. Donc Nagelsmann se prend un peu pour Genesio sur ce type d'action-là, mais c'est vraiment toujours ce qu'ils font. Et ça, dans ce rapport de force-là, en ce moment, on n'est pas très très bon. Donc il va falloir qu'on prenne sérieusement. Après, pour le profil des milieux de terrain, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'aspect avec ballon, mais j'ose espérer que athlétiquement, Herrera, Marquinhos et Gay, ça peut répondre. Oui. Et j'ai quand même le souvenir d'un Leipzig qu'on a fait s'écluser il n'y a pas très longtemps. Alors oui, pas avec les mêmes acteurs, mais entre-temps, je ne pense pas qu'ils aient changé de gardien. Et il ne s'est pas fait greffer les pieds de Ter Stegen entre-temps. Donc ils vont quand même nous offrir de quoi exploiter pas mal de choses. Si tant est que ce soit la même équipe qu'au mois d'août.
Marquinhos, Gueye, Herrera, c'était le milieu face à l'Atalanta d'ailleurs. Passage.
Ouais, tout à fait.
Ouais, j'avais zappé, mais
et oui, c'était.
T'as raison.
Ouais. Et
un milieu qui a pas fait une passe du match. Hein.
Ah oui, mais moi je leur
demande de courir. C'était la passe map, c'était Navas vers Neymar.
Ah bah on a laissé les adducteurs de Navas. Hein.
Bah grave, le but c'était qu'ils s'écartent et qu'ils ouvrent le terrain pour Neymar.
Avait beauté des drops comme Dimitri Yajvili.
Navas Wilkinson.
Je peux te dire que Keane, il est en train de dire à Navas, alors tu me la mets sur le côté là, parce que j'en ai marre de faire des duels aériens, je le vois venir de loin. Mais bon. Non mais tu as raison quand tu parles de la dimension physique du milieu de terrain, Omar, parce que Campbell et Sabitzer, il faut les suivre hein, quand même. Hein.
Les deux, c'est en termes d'activité. Ça court, hein. Ah, ça galope hein, même. Ça, ça, plus, ça fait plus que courir. C'est des joueurs que tu vois pas en Ligue 1, ça. C'est des joueurs qui n'existent qu'en Angleterre.
Leimer aussi. Conrad
Leimer. Ouais, mais lui, il est off, lui. Il est blessé. Ah, okay. Et oui, il faut lire les articles du site, monsieur Martinez.
Je me suis pété
le cul à lire le Leipziger Volkszeitung ce matin et hier pour rien. Je peux te le dire, c'est pas un cadeau. C'est pas très bien écrit en plus. Donc, mais Leimer, il sera pas là. Et Klostermann, surtout, qui est un joueur important derrière, qui est un peu leur couteau suisse, qui leur permet un peu de tout. Qui n'est pas là non plus. Mais non, sinon le milieu ça sera Campbell et Sabitzer quoi. Ça c'est quand même, le retour de Sabitzer peut leur faire beaucoup de bien parce que c'est quand même le capitaine de l'équipe et surtout c'est un joueur qui est capable d'être décisif. Je crois que l'an dernier à partir du moment où il a récupéré le brassard, c'était 9 buts et 8 passes décisives ou un truc comme ça quoi. Alors que c'était un joueur qui juste là avait un petit peu de mal à stater, on va dire.
Il frappe beaucoup de loin lui en plus, non? Parce que nous, on aime bien laisser des positions de tir aux adversaires ces derniers temps.
Ouais, il frappe de loin, Sabitzer. Et puis il a de la puissance. Hein, donc, après, Campbell aussi est capable de frapper de loin, mais un peu moins. C'est vrai que Campbell, c'est un beau joueur, mais il lui a manqué un petit quelque chose pour devenir un joueur de niveau européen. Mais Sabitzer est un joueur qui a progressé avec le temps. En fait, c'est marrant, c'est que Sabitzer, Poulsen, par exemple, c'était les joueurs qui sont là depuis vraiment super longtemps. Et Poulsen a un peu saturé au niveau Champions League, alors que Sabitzer, lui, a complètement franchi le cap. Aujourd'hui, c'est un joueur qui compte quand même, Sabitzer, en Ligue des Champions, même pour Leipzig, c'est un joueur clé. Quoi. Donc, c'est vraiment pour moi le mec à surveiller de cette équipe. Quoi. On nous dit, je ne sais pas si on peut être inquiet du volume de Gueye, Marquis, Herrera, faut surtout qu'il n'ait pas trois feignasses devant qui laissent des boulevards. Après, c'est sûr qu'avec le ballon, c'est vraiment inquiétant. Oui, il faut espérer quand même une performance collective importante, j'ai envie de dire, en termes d'effort. Parce que contre une des équipes qui court le plus en Europe, si tu défends à 7, t'as beau avoir des marathoniens comme Gueye au milieu, tu peux même mettre 3 Gueye au milieu. Il y a un moment, le pauvre. Ça ne tiendra pas. Quoi. C'est un effort collectif qui est attendu à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Si on refait le match de Başakşehir ou même celui de Manchester où il y en a deux devant qui glandent, c'est pas possible. Quoi. Je sais pas, Mathieu ou Tigno, ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est évident quoi, que tu peux pas faire du 7-3 ou du 6-4 ou même du 8-2. Quoi.
Non, on peut pas faire ça dans cette compétition. C'est une compétition sérieuse. Il faut défendre à 11, allez, si tu veux, à 10. Mais il faut défendre avec un bloc équipe. Un bloc équipe, il faut qu'il y ait l'existence d'un bloc équipe. Des fois, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, qu'on se fait transpercer assez facilement, que. Tout à l'heure, on parlait des premiers efforts à faire par les attaquants. Quand Tourelle parle de contre-pressing, en fait, ce contre-pressing, il ne peut pas exister quand nos attaquants, à la perte ou à l'annihilation d'une action pour nous, ne font même pas le petit pas en avant pour essayer de contre-presser et de récupérer ce ballon. Donc oui, il faut que ce soit un effort collectif, il faut retrouver un bloc, il faut retrouver un allant collectif. Et ça, c'est important, soit dans cette compétition-là, soit dans les matchs qui arrivent. On va sans doute avoir quelques sueurs froides, quelques moments de pression de l'adversaire. Il va falloir répondre en défendant ensemble. Ça, je pense que c'est normal. Après, c'est vrai que quand on regarde les matchs du Paris Saint-Germain actuellement, on a l'impression que c'est quelque chose d'anormal de défendre à 11. Mais ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver de voir des choses comme en Turquie où on était trois devant à ne pas faire les efforts, comme contre Manchester. Enfin, c'est des images terribles. Hein. Moi, quand je vois ça, je ne comprends pas comment on peut laisser nos coéquipiers faire autant d'efforts, essayer de défendre la largeur comme ils le peuvent. Là, je parle des demi de terrain souvent. Quand je les vois, des fois, je me dis, mais ce qu'on demande au milieu de terrain parisien, par moment, c'est
inhumain.
C'est insoluble, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, on peut mettre n'importe qui. On peut mettre Daniel, on peut mettre Marquinhos, on peut mettre je ne sais qui, mais c'est insoluble. On peut pas défendre autant de terrain, on peut pas défendre la largeur comme ça à deux. Je sais pas comment. On a souvent vanté l'esprit de groupe de cette équipe-là l'année dernière avec les Final Eight, etc. Mais des fois, quand je vois des choses comme ça, je me dis non, il n'y a pas d'esprit de groupe. Enfin, tu veux pas laisser ton coéquipier autant dans la merde comme ça et le regarder prendre des vagues et toi même pas faire exprès ou même pas faire semblant de faire un effort, quoi. Enfin, c'est pas normal.
Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que tous les supporters parisiens attendent un peu ça de cette équipe mercredi soir. Non, il y a une question qu'on pose sur live qui, effectivement, je trouve très intéressante. C'est est-ce qu'il serait pas possible de voir Florenzi au milieu et un joueur comme Thilo Kehrer à droite, par exemple? Qu'est-ce que vous en pensez de cette hypothèse, Mathieu? Tiens, toi qui as le micro ouvert.
Florenzi dans les trois du milieu, tu veux dire ?
Je sais pas si c'est dans ou, le. Ou peut-être même 4-4-2, carrément. Quoi. Ouais. Est-ce que, par exemple, tu verrais pas Florenzi à droite, Di Maria à gauche et tu mets comme ça Kin Mbappé devant ? Je sais pas, ça peut être une idée, non ? Mais je suis. Parce qu'effectivement.
Alors, enfin, je suis pas contre le fait de mettre Florenzi à ce poste-là parce que c'est un poste qu'il a déjà occupé, etc. Mais le problème, c'est que si tu décales Di Maria à gauche, je pense que tu perds à peu près tout ton potentiel créatif.
C'est effectivement une... non, bah, peut-être alors qu'il parlait de le mettre dans les trois du milieu pour apporter un peu de tenue de balle, effectivement, Florenzi. Ça serait par exemple, tu mettrais, je sais pas, genre Gay, Marquinhos, Florenzi, pour justement créer.
Je sais pas si c'est ce qu'il apporte au milieu, Florenzi. Pas forcément la tenue de balle, c'est plus des appels, plus de même du volume aussi, des courses vers l'avant, mais la tenue de balle au milieu de terrain, c'est pas forcément son.
Oui, non, son style. La personne qui nous disait ça disait dans un 4-4-2, effectivement. Je serais pas surpris qu'on voit effectivement peut-être Florenzi dans une autre utilisation.
Mais peut-être que tu peux avoir Kerrer à la place de Florenzi, arrière droit. Ça, c'est... Et Florenzi sur le banc, du coup. Je sais pas.
Ouais. On en a pas parlé, la défense centrale, effectivement. Bon, Kimpembe, pareil, intouchable. Pareil, Kurzawa à gauche. Pour vous, plutôt Danilo ou Kerrer, sachant qu'il a relancé Kerrer en fin de match contre Nantes. Plutôt Danilo, non ? Je pense qu'il va aller dans son idée comme ça, non ? Je sais pas.
Bah, normalement, oui. Mais...
Ouais, moi aussi, Danilo. Pour moi aussi, je pense que ce sera Danilo. Après, je ne suis pas Kerrer pour les prochaines semaines. Hein, quand il va revenir à un niveau physique beaucoup plus intéressant et important. Mais là, je pense qu'on y va avec Danilo encore. Il est sorti en plus ce week-end ?
Oui. 65e, je crois qu'il est sorti.
Ouais, je pense qu'on y va avec Danilo.
Très bien. On nous demande pourquoi pas une défense à 3 centraux. Bah, le problème de jouer avec des 3 défenseurs centraux, c'est qu'en face, ils ont même pas vraiment une pointe. Alors, 3 défenseurs centraux pour gérer même pas un seul vrai attaquant, c'est un peu particulier. Ça, après, ça, c'est qu'on est un peu orienté marquage individuel. Oui, pourquoi pas, effectivement. Mais il reste à savoir qui jouerait le défenseur central. Est-ce que ça serait Danilo qui a pas du tout de repère à ce poste-là ? Est-ce que ça serait Kerrer, Kimpembe ? Enfin, il y a beaucoup de questions si on veut jouer avec 3 défenseurs centraux. Puis ça veut dire qu'on enlève un milieu de terrain là pour dans un secteur de jeu où Leipzig met souvent beaucoup de monde. Donc je suis pas sûr que la défense à 3 soit forcément très adaptée pour ce type de match. Je sais pas si peut-être que vous avez un autre avis, Simon, pas n'importe quoi, l'habitude. Omar, Tigno ou c'est Mathieu. Ça, c'est... Ouais, non, la défense à 3, vous y croyez pas beaucoup non plus?
Tu peux toujours imaginer des coups tactiques comme ça, mais...
Je crois pas.
À ce moment-là, tu peux tout imaginer, oui.
Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que... Devant, on est tous d'accord pour le finalement, peut-être, le trio Mbappé, Kin, Di Maria, non ? Enfin, il faut espérer qu'Mbappé soit apte à débuter, déjà. Il faut quand même le dire.
Mais, ça a donné quoi son IRM ? On n'a pas de nouvelles de son IRM du jour ?
Je travaille pas à l'hôpital américain, Tigno. Hein. Non, il n'y a rien qui est sorti, mais visiblement, ça doit... Enfin, en tout cas, si ça avait été négatif, je pense qu'on l'aurait vu dessus. Quoi. C'est surtout ça. Quoi. Donc, bon. À suivre. Omar, tu es là de nouveau, parce que je vois que tu me dis que tu fais des tests de micro. Donc, bon, il a dû partir, il revient, on verra. C'est extraordinaire ce podcast encore. On est très en forme sur la technique. Nous, faut le savoir, on est un peu le milieu Herrera, Gay, Marquinhos du podcast.
C'est très laborieux, ouais.
Très très laborieux ce soir. Non, sur le milieu de terrain, donc toi Mathieu, tu ne vois malheureusement un peu que les 3 que tu as cités, un peu par élimination au physique, c'est ça, non ?
Ouais, exactement. Je ne vois pas Rafinha dans un match de cette intensité-là. Puis après, il y a toujours l'option Paredes, comme ça d'un coup, pour son retour. Après tout, il a raté quoi, 2 semaines de compétition, pas beaucoup plus.
Ouais.
Mais...
Bon, ça a visiblement recoupé, donc c'est extraordinaire. Je crois que...
Non, je disais juste qu'il a raté que 2 semaines de
compétition. Ouais, non, c'est ça. Il a été blessé le 16 et il a repris le 31, le 1er novembre. Parce que, 2 novembre, il a repris. Ouais, donc un peu plus de 2 semaines. Voilà. Il a raté 2 semaines et 3 jours. Quoi, voilà. Et c'est vrai que sur le live, on me dit Tuchel n'a jamais lancé un joueur de retour de blessure. Peut-être Verratti. Comment ça a été Bernat aussi. Bernat.
Kimpembe face à Madrid.
Et Kimpembe, il l'avait fait travailler quand même 3 semaines, 1 mois avant.
Ce qu'il allait dire. Ouais.
Ouais, voilà. Après, on nous dit est-ce qu'on retarde pas l'annonce pour Mbappé afin de laisser moins de temps pour s'adapter à Nagelsmann ? Alors, je pense. Wow. à ce niveau-là, malheureusement, ils sont pas surpris par un joueur, un autre, ils se connaissent tous. Voilà. En Ligue des Champions, bah ouais, Bernat, qui avait été relancé, Kimpembe, relancé en Ligue des Champions. Ça peut arriver. Et c'est vrai que face à l'urgence, Tourelle a quand même ouvert la porte à ça. Quand il dit, ouais, on lance des joueurs avec un entraînement dans les pattes, bon, là, ils en auront deux. Mais bon, c'est pas beaucoup plus. Beaucoup plus, beaucoup plus. Voilà. On nous signale que visiblement Neymar et Mbappé sont en pleine soirée avec Memphis Depay. Bah, disons que c'est bien ça. Ça prépare dur la Leipzig, ça, on y croit, les gars. Bon, c'est pas très grave. Enfin, je sais pas où ils en sont. Bref, on verra. Tant qu'ils chopent pas le Covid, mais ils l'ont déjà tous eu, donc ça devrait être bon. Sur le reste, j'avais mis dans les thèmes. Bon, c'était pas non plus le thème du siècle. Hein. Est-ce que c'est un match à ne surtout pas perdre? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut pratiquement le. S'il y a 1-1 à 20 minutes, à 10 minutes de la fin, est-ce qu'il faut continuer à attaquer ou est-ce qu'il faut se mettre à défendre? Bon, Mathieu, je n'ose même pas te demander ton avis.
Ce que j'allais dire, je connais la réponse de Marty.
Il va nous dire. Mais alors, vous faites rentrer un ou deux défenseurs
centraux. Après le scandale collectif face à United, j'espère qu'on va se calmer cette fois.
Non, mais tu es d'accord que c'est quand même un match qu'il faut pour lequel il ne faut surtout pas lâcher 3 points à Leipzig, quoi, en fait, c'est ça?
Bah, évidemment, surtout avec la perspective, encore une fois, de. D'un Leipzig-Manchester à la dernière journée, et d'un Manchester qui serait potentiellement déjà qualifié et qui enverrait l'équipe bis avec une première ligue qui est beaucoup plus importante pour eux. Donc non, effectivement, il faut prendre ça en compte hein, quand on se met à faire des calculs.
Le fameux biscotto est dans ta tête, oui, je le sens.
Le biscotto qu'on redoute. Mais... Non, mais c'est clair, on va dire que 6 points, si tu fais 6 points face à Leipzig, t'es qualifié. Tu fais 4 points, t'es bien. Tu fais 3 points, il faudra voir le goal average particulier, mais tu seras en ballotage défavorable. Et si tu fais 1 point, t'es dehors. Donc,
voilà.
Il n'y a pas beaucoup d'autres scénarios.
Non, mais oui, c'est un peu ça. Après, c'est clair que si tu as l'opportunité de gagner, faut pas la laisser passer. Quoi. Si tu gagnes, je trouve que quelque part, tu annules un peu. Enfin, j'aime pas dire ça, mais. Tu rétablis un peu un équilibre après ta défaite inaugurale face à Manchester. Quoi. Tu sais que la première place est quand même très mal barrée parce que là, United risque d'avoir 12 points après 4 journées quand même. Donc autant te dire que bon, ils sont quand même très bien partis eux aussi. Mais tu peux atténuer les effets de cette défaite à la maison d'entrée qui a fait très mal. Quoi. C'est un peu l'idée. En fait, je me dis que si tu peux, tu prends ces 3 points-là et puis bah. Après, il faudra encore gagner le retour et surtout ne pas perdre à la maison parce que tu peux te retrouver là vraiment dans une situation très 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 compliquée. Quand même. Omar, qu'est-ce que t'en penses? Match à gagner, match à ne pas perdre Bon, toujours des problèmes de micro, il est là, il n'est pas là, on ne sait pas trop. Tigno, vas-y.
Non, mais oui, c'est un match à ne pas perdre, hein, mais ce serait bien de faire 6 points, évidemment, c'est une évidence, de faire 6 points pour. Comme a dit Marty, si on fait 6 points, je pense qu'on est qualifié. Donc ce serait bien de tenter de faire 6 points, mais si on est à 1-1 à la 80e et qu'on sent qu'on est plus vers le 2-1 pour Leipzig que le 2-1 pour nous, bon, ce serait bien de ne pas faire rentrer Rafinha dans un double bio. Mais non, je pense que c'est un match à ne pas perdre tantôt.
D'accord, bon. On peut. Vous voulez rajouter quelque chose ou pas? Parce que j'avoue que là, je suis un peu arrivé au bout des thèmes. Vous voulez qu'on passe éventuellement en revue les options de Leipzig en termes de compo, peut-être? Mais si ça risque d'être un peu un monologue, c'est quelque chose qu'on a...
Il n'y a que toi qui peux le faire, ça.
Bah alors, donc, ça sera Goulassi dans les buts, forcément. Alors, Kicker, ce matin, a annoncé une défense à 3 avec Orban, donc l'ancien capitaine en stopper droit, Upamecano dans l'axe et Alstenberg en stopper gauche. Alstenberg, n'ayant toujours pas repris l'entraînement. Arsten, je suis désolé, j'écorche son nom à chaque fois. Je vois pas comment il peut jouer, sachant qu'il a les adducteurs en vrac. Je pense que ça sera peut-être Moukile, mais si aucun des deux n'est là, ça veut dire qu'on se dirige tout droit vers une défense à 4. Et donc, ça serait Orban, Upamecano dans l'axe, Angelino à gauche. Et le nom du mec à droite m'échappe, donc ça reviendra. Konaté, alors Konaté, il est visiblement hors de forme. C'est quand même un des très gros espoirs français, mais il est visiblement pas du tout prêt. Quoi.
Il a pas joué contre Manchester
mais il a pas été bon. Ça a été son seul match de 90 bon. Minutes de la saison. Sinon, il joue très peu. Enrich à droite, merci sur le live. Voilà, l'ancien Monégasque. C'est exactement ce qu'il me dit. Oui, donc ça sera lui normalement à droite, même s'il fait pas des gros matchs. Ensuite, devant la défense, ça risque d'être double pivot Campbell-Sabitzer, les mecs qui courent partout. Devant, il est annoncé donc Forsberg et Nkunku en soutien de Poulsen. Dani Olmo pourrait jouer aussi. Il y a comment il s'appelle, Tyler Adams, le très bon américain. Bah, c'est celui qui avait marqué le but de la victoire contre l'Atlético, si je me souviens bien, le petit Tyler Adams.
C'est ça, c'est lui qui a frappé. Ouais.
Bah, lui, pareil, il a des petits problèmes au genou. Il n'arrête pas de revenir, quitter le groupe. Il était ce week-end, je crois qu'il n'était pas à Gladbach. Et il n'était toujours pas à l'entraînement aujourd'hui. Donc je ne crois pas beaucoup à une titularisation. Au mieux, il sera dans le groupe, je pense. À mon avis, ils vont tenter de faire, je pense qu'ils vont tenter de faire jouer Mukiele pour pouvoir jouer à 3 derrière. Parce que globalement, quand tes latéraux s'appellent Angelino et Hendrich, t'évites de jouer avec une défense à 4. Hein, parce que ce sont quand même des joueurs très portés sur l'offensive. On n'est pas sur des latéraux, comment dirais-je, italiens des années 90. Quoi. Donc voilà, un peu... Gladbach a quand même des gros problèmes de, comment dirais-je, de physique déjà, tout simplement.
Leipzig, tu veux dire, Philo?
J'ai dit Gladbach, excusez-moi, la fatigue. Leipzig a des gros problèmes de physique et leur entraîneur n'arrête pas de se plaindre qu'il joue trop, qu'il a trop de blessés, ça rappellera quelqu'un. Je pense qu'en ce moment, tous les entraîneurs peuvent faire les mêmes conférences de presse, hein, je vais vous le dire, c'est assez marrant. Et globalement, ils n'ont pas énormément d'options, quoi, parce que même ceux qui sont arrivés à cette intersaison, là, ceux qu'on a cités tout à l'heure, notamment Wang, ou comme il s'appelle, le mec prêté par Crystal Palace, là... Sorlot, voilà, il a pas joué beaucoup jusque là et ils sont pas non plus dans, je trouve qu'ils sont beaucoup moins bons qu'il y a quelques mois. Après ils ont toujours leur jeu, leur façon de jouer qui est quand même très particulière, qui est très à eux, qui est acquise et pour certains elle est presque même innée. Il y a Aïdara aussi qui avait été un moment pisté par le PSG, qui revient du Covid et on ne sait même pas si... Bon, il devrait être dans le groupe parce qu'on est des champions, c'est des feuilles de match de 23 joueurs, donc il devrait être là. Mais il y a peu de chances qu'il soit titulaire, voire qu'il joue. Quoi. Et il y a Campbell aussi qui est sorti à l'heure de jeu ce week-end parce qu'il avait des malaises. Il ne se sentait pas bien. Ah ouais, non, mais les joueurs, ça pète de partout en Europe, c'est assez, assez grave. Et il y a Justin Kluivert, oui, effectivement, qui est là-bas, mais je crois que... Je me demande s'il n'est pas blessé en ce moment, ce bon Justin. Donc... En tout cas, je me souviens même pas l'avoir vu cette saison avec un maillot de Leipzig sur les épaules. Donc, attendez, je vais vous dire s'il a joué. Ça va prendre quelques secondes. Justin Kluivert a joué 66 minutes depuis le début de la saison. Donc, autant dire que, voilà. Comme... Là, ce week-end, pour vous donner une idée de l'état de leur effectif, ils ont fait jouer Lazar Samardžić, qui est je crois que c'est un Serbe qui a 18 ans à peine. Voilà. Et c'était sa première titularisation au niveau pro, quoi. Voilà un peu où ils en sont en termes d'effectifs, donc c'est pas la fête chez eux non plus. Et ils ont quand même pas mal de difficultés à gérer, comme tout le monde, la reprise de la compétition, tout ça. Quoi. Voilà.
Je pense qu'il y a un truc important dont il faut parler, c'est le choix vestimentaire, le choix du costard de Nagelsmann, parce que à chaque fois qu'il met un costard assez, assez bizarre, là, ça se passe plutôt mal pour son équipe. Donc s'il pouvait continuer ces choix bizarres, là, ça serait bien pour nous.
On espère un drame vestimentaire de la part du coach allemand qui monte, on va dire. Mais bon. Concernant, oui, Oh là là, j'ai le live qui a complètement planté, c'est une catastrophe. Je suis désolé, c'est possible que vous n'entendiez plus rien là, sur le live. Oh là là, il n'y a plus rien qui marche, c'est terrible. Bon, on va espérer que ça revienne. Voilà. Non, sur les autres trucs du week-end, comme on fait souvent, c'est pas compliqué. En jeune, il n'y a plus de match. Et chez les féminines, elles ont gagné 4-0 contre Fleury. Et il me semble qu'en hand, ça a été. Non, en hand, on jouait contre Limoges, qui est le deuxième, ça a été une raclée monumentale. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine. On devrait pouvoir faire un podcast de débrief d'un point de vue technique, si tout va bien, en cours de semaine. Probablement jeudi soir, hein, puisque le match est mercredi. 42 à 20, me dit-on, pour le round. Effectivement, voilà, c'est ça. C'était pour le premier contre le deuxième, pour vous donner une idée de l'écart qu'il y a eu. Voilà. Simon qui vient mendier des likes, mais travaille, toi. Merci, mon ami. On vous remercie pour votre fidélité, pour tous vos messages. On espère qu'on a été complet. C'est un peu plus court que d'habitude. Ouais, 1h37, mais je suis, entre
le fait que Tourelle n'a aucun choix ou presque contre Leipzig, entre le fait que le match à Nantes a été une méga purge, nos petits problèmes techniques qui nous empêchent de libérer le prince Omar sur, sur le RB Leipzig, on n'a pas non plus 10 000 trucs à dire, donc autant faire court pour une fois, écoutez, il y en a qui seront contents comme ça. Voilà. Ah non, juste un autre truc, j'espère que le petit bonus du livre vous a plu, voilà, on va continuer d'en mettre, on a prévu au moins un podcast à propos du livre. On verra comment on s'en sort, mais ça ne sera pas tout de suite. Hein. Le livre ne sortant que début décembre. Voilà pourquoi on ne le fera pas tout de suite. Et on dit parfait comme bonus. Bah écoutez, tant mieux si ça vous a plu. Merci en plus aux deux personnes qui avaient prêté des photos pour illustrer. C'était très sympa de leur part. Voilà, bonne soirée à tous. À bientôt. Et merci encore pour votre fidélité, vos likes, vos dons encore et tout. Vraiment top, 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 comme on dit sur le live. Voilà. Au revoir tout le monde. Bonne soirée.
Ciao.
Ciao, ciao.
Bon, et Omar vous dit au revoir parce que son micro ne marche pas. Donc je transmets, vous avez la bise du maire du 20e.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.